Le business.
Ouais. Business of bouffe.
Business of bouffe.
Tu vois, je l'aime pas du tout en fait. Ouais.
Je vais bouffer, j'ai pas bouffé, j'ai envie de bouffer, la bouffe, la bonne bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
Tout à fait.
Je suis très content de dire bouffe.
Nous sommes Daniel et Philibert.
Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard, un ambassadeur de son terroir.
Nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Danone, mais alors on y reviendra tout à l'heure dans une entité très particulière de Danone. Et je suis comme à mon habitude accompagné par mon associé Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert.
Et nous sommes donc aujourd'hui avec Christophe Audouin. Bonjour Christophe.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Christophe, je te laisse te présenter en deux mots pour commencer.
Oui, alors je suis Christophe Audouin, je suis directeur général des Prairies Bio, et tu as bien fait effectivement de préciser. Les Prairies Bio, c'est une filiale de Danone qui a été montée il y a 13 ans, dans un modèle d'intrapreneuriat. Voilà, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard.
Parfait.
Et je me définis, au-delà d'être le directeur général de cette petite filiale de Danone, comme probablement faisant partie du troupeau des deux vaches, et la plus ancienne des vaches. Et en agriculture biologique, les vaches, on les réforme moins vite qu'en conventionnel. Et d'accord. J'ai la chance, du coup, de ne pas avoir été encore réformé sur ce troupeau-là. Donc, je suis en place.
Bah, on va y revenir justement sur toute l'aventure des deux vaches. Mais nous, on a une question rituelle dans notre podcast, qui est notre passion. Pourquoi la bouffe? Comment t'es arrivé à l'univers food?
Ouais, alors on a tous probablement un chemin pour arriver à l'univers food, et le mien est assez singulier. Je vais déjà commencer par assumer que je suis pas forcément un grand épicurien. J'ai plutôt tendance à me nourrir plutôt que à vraiment toujours vouloir bien manger, mais parce que je suis fait ainsi. Mais pourtant, je suis tombé dans cet univers bouffe, pas par hasard quand même, puisque en réalité, ça fait maintenant 3 générations avec la mienne, dans la famille, que nous sommes dans l'alimentaire, et plus particulièrement dans la crèmerie, puisque mes grands-parents tenaient une crèmerie à Grenoble. Oui, et au Savoyard également.
Très bien, très bon point.
Voilà. Donc, il tenait une crèmerie à Grenoble. Mes parents ont repris cette crèmerie. Et d'ailleurs, vendaient à l'époque des produits Danone, le petit Suisse notamment, qui est très très vieux. Ouais. Et puis, mon père, avec l'évolution du grand commerce, à un moment, s'est rendu compte que de tenir une crèmerie dans un centre-ville, à l'époque, on allait dans les années 50, allait être compliqué pour eux deux. Et donc, il a eu l'idée, à un moment, après être passé par la grande distribution, d'aller taper à la porte d'une société qui s'appelait Gervais à l'époque.
D'accord.
Et qui était d'ailleurs un de ses fournisseurs dans sa crèmerie. Et donc, il est rentré chez Gervais à la fin des années 50.
Il a fait comme salarié, en fait.
Ouais, comme salarié.
Il a vendu sa crèmerie et
il est rentré par la petite porte, puisqu'évidemment, il était très peu diplômé, comme beaucoup de cette génération-là. Ouais. Et il a profité de l'ascenseur social des 30 Glorieuses, dans une entreprise qui était elle aussi en plein développement. Donc, il a commencé par être un chauffeur, livreur, vendeur, comme il en existait beaucoup à l'époque. Et puis, petit à petit, il a gravi tous les échelons jusqu'à la fin de sa carrière, où il a fini sur un statut de directeur. Il a fait une belle carrière. Donc, je suis tombé là-dedans. Et d'ailleurs, sans aucune transition, puisqu'il a quitté avant que j'arrive chez Danone.
D'accord.
Mais je me suis retrouvé, moi aussi, dans cette entreprise-là. Et du coup, dans le secteur de l'alimentaire, bien sûr.
Et toi, tu as fait quoi? Une école des commerces? Une école d'ingénieur?
Alors, en fait, mon parcours, il est particulier chez Danone. Il l'était, finalement, j'aurais dû me méfier, mais dès le début, en rentrant chez Danone.
D'accord.
Puisque j'ai le souvenir qu'à l'époque, là, sur la vingtaine de la même promotion, recrutée au même moment, pour faire du commerce, moi, je suis rentré par le commerce, par les ventes. J'étais le seul universitaire, à l'époque. Et donc j'ai commencé à construire ma spécificité chez Danone déjà sur le diplôme. Donc j'ai une maîtrise universitaire en management et en gestion.
D'accord.
Quelque chose d'assez classique. Donc non, je ne suis pas passé par une école de commerce.
Super. Et tu as démarré cette promo, c'était quoi les 20 personnes qui faisaient partie de la première promo, c'était quoi comme profil en fait?
C'était globalement justement des profils issus des grandes écoles de commerce françaises, et qui avaient comme point commun avec moi que de vouloir attaquer par le terrain et faire de la vente. C'est un métier qui à l'époque était beaucoup plus recherché qu'aujourd'hui.
Chez Danone, t'es arrivé dans quelle branche?
Ah, je suis rentré dans l'ultra frais.
Directement dans l'ultra frais, donc dans les produits laitiers.
Ouais, exactement.
Les parcours de tes parents, ça a eu un impact dans la décision.
Mais bien sûr,
ta connaissance du métier, quoi.
Indéniablement, et puis une connaissance de la culture de cette entreprise. Dont j'ai entendu parler tout petit puisque mon père m'en a énormément parlé et je crois qu'il était très très attaché à cette entreprise. D'ailleurs, il est toujours en vie.
Ouais.
Et il est toujours très intéressé par ce qui se passe, par ce que je fais et par ce que fait le groupe. Et donc bien sûr que ça n'a pas été neutre dans mon choix, j'avais plusieurs choix, j'étais d'ailleurs pris en grande distribution également chez Auchan, voilà. Mais j'ai fait le choix de Danone. J'ai fait le choix de Danone parce que je savais aussi qu'au-delà de l'alimentaire, au-delà d'un yaourt, il y avait déjà, avant même l'aventure Lait de Vache, mais il y avait quelque chose de plus dans cette entreprise-là. J'ai été biberonné à Antoine Riboud, au discours de Marseille en 72, où Antoine Riboud prend la parole devant tout un parterre de patrons et dit un truc à l'époque complètement extraordinaire. Il explique à tout le monde que la responsabilité des entreprises ne peut plus s'arrêter au seuil des usines.
Ouais.
Voilà. Et en disant ça, il pose les fondations.
Quelle année ça?
72.
Congrès du MEDEF actuel à Marseille. Voilà. Donc j'ai été quand même biberonné à ça. Et je l'assume. J'en suis assez fier d'ailleurs.
Tu commences sur des fonctions commerciales dans quelle région chez Danone?
Alors je rentre par la fonction effectivement commerciale qui est le job classique d'entrée de chef de secteur sur une zone qui est une zone que je connais sans la connaître puisque c'est Saint-Étienne, étant lyonnais aussi d'origine, je me retrouve à Saint-Étienne et je commence par ce métier-là et je le fais et je l'assume avec un grand plaisir. Étant à cette époque-là, et je reviendrai plus tard sur l'état d'esprit et la façon dont les années passant et la maturité avançant, j'ai compris et envisagé l'impact que je pouvais avoir sur mon activité. Mais étant à l'origine quelqu'un de très compétiteur, sportif, ce métier de chef de secteur a été pour moi, à l'époque, le meilleur des accomplissements pour justement, comme je le faisais pour de la course à pied ou pour des sports collectifs.
La culture de la performance, c'est ça.
Voilà, à tout prix, tout prix.
Et avant les prairies bio, tu as passé combien de temps chez Danone? En fait, tu fais carrière chez Danone. Ton parcours, il est.
Ouais, j'ai fait. Oui, bien sûr. Je n'ai fait que cette entreprise-là en faisant énormément de postes différents en un peu plus de 10 ans. Donc, à peu près toutes les fonctions commerciales possibles, de la fonction commerciale classique en point de vente dont on vient de parler, au merchandising, à la négociation, en centrale d'achat régionale, nationale, patron des grands clients, du management, qu'il soit restreint sur des équipes de vendeurs, plus élargies ou beaucoup plus élargies, puisque j'ai eu aussi la chance, après des expériences commerciales, de faire de la supply chain également, comme patron de plateforme logistique, comme directeur logistique. Donc là, pour le coup, du coup, avec une dimension opérationnelle et de management élargi avec plein de strates, évidemment, et différents types de management et d'enjeux, et qui n'ont rien à voir avec le management de jeunes loups sortis d'école de commerce. Donc tout ça m'a fait beaucoup mûrir, et j'ai eu cette opportunité-là, et Danone, encore aujourd'hui, propose à ceux qui lèvent le doigt et qui sont volontaires pour le faire, ce genre de possibilités, et j'ai pu en profiter. Donc oui, j'ai fait de la supply chain. J'ai également fait un peu de développement recettes et de marketing. Je me suis occupé pendant plus de 2 ans d'une activité qui était d'ailleurs, qui avait quelques points communs avec les prairies bio, puisqu'on avait créé une filiale aussi de l'intrapreneuriat à l'époque, mais alors pour des raisons complètement différentes, qui était sur de la marque distributeur.
Voilà.
L'idée étant à l'époque de développer cette activité-là chez Danone, mais sans être forcément méga visible et de pouvoir le faire une certaine forme de discrétion. Donc je me suis occupé de cette entité-là pendant 2 années.
Qui fournissait donc des yaourts à la grande distribution.
Exactement, sortie d'usine Danone.
Avec
un scope très large dans cette activité qui allait, ce que je disais tout à l'heure, de l'élaboration et du développement des recettes, du travail des packs et aussi de la négociation avec les grandes centrales d'achat.
Donc ça, c'était déjà une première expérience d'entrepreneuriat.
D'entrepreneuriat, tout à fait. Oui.
Mais ça t'a donné les goûts, je suppose.
Évidemment, et on se retrouve jamais à un endroit par hasard.
Et cette activité, elle existe toujours ou de Danone ou pas?
Non, elle a été arrêtée. Mais c'était relativement prévisible puisque le but de cette activité-là, elle, le but était double à l'époque. Hein, c'était alors là pour le coup, Franck Ribou qui était à l'époque assez assez proche de certains distributeurs.
Juste pour t'interrompre, donc pour ceux qui nous écoutent, Franck Ribou, président de Danone, entre quelle période en fait
Franck Ribou, ce sont les années, sont le milieu des années 90,
d'accord,
jusqu'à la fin des années 2000.
D'accord.
Voilà, avant Emmanuel Faber.
Tout à fait.
Et Franck Ribou était relativement proche d'un certain nombre de clients, notamment le groupe Baude, la famille Baude, c'est Franprix, Leader Price. Mmh. Et donc, à l'époque, il y avait l'idée, en gagnant-gagnant, de travailler avec Danone sur la marque distributeur. L'objectif à l'époque de Danone était de comprendre ce marché-là, en veille, finalement. Ouais. Et puis aussi, quand même, potentiellement, à un moment où l'activité dans les usines, dans ces années-là, était pas au top, de pouvoir écraser les coûts fixes des usines en faisant rentrer des volumes. Quant à la marque, les volumes rentraient un peu moins. Donc, on était sur quelque chose qui était de l'ordre de la veille stratégique et de la tactique.
Bien sûr.
Et donc, comme souvent, une tactique à un moment change et on peut du coup arrêter l'activité, ce qui n'a jamais été l'activité corps de Danone.
Bien sûr.
Et ça avait été géré à l'époque comme un laboratoire d'intrapreneuriat déjà, ce qui rappelle l'aventure que tu veux nous raconter un peu.
Oui, après, alors il n'y avait vraiment pas cette ambition. Ouais. On était dans le pur tactique.
Ouais.
Il y avait l'idée d'être très très peu visible, que ce soit des concurrents, que ce soit quand même l'air de rien des consommateurs. Ouais. Donc il y avait vraiment cette idée là, mais on n'était pas dans la hauteur de vue
pas comme
du projet des Prairies Bio.
Et comment il est né, les projets de Prairies Bio, en fait? Ça, c'est quoi l'origine de ces projets-là? Est-ce que tu peux nous raconter ta version de l'histoire?
Ma version de l'histoire. Alors, sachant que la mienne est quand même assez juste puisque, j'ai cette chance-là, c'est que j'ai été très tôt sur l'histoire.
Mm-hmm. Ouais.
Puisque pour la petite histoire, justement, je suis, moi, arrivé un an après le lancement. Dans un premier temps comme directeur commercial et puis depuis 5 ans là comme directeur général, donc j'ai une version, je pense, assez précise de l'origine.
Pour situer, ça fait quelle année ça
exactement? Il y a maintenant plus de 13 ans.
Donc 2000.
Ton arrivée, la création c'est 2006.
Ouais, c'est fin 2006.
Ouais. D'accord.
Fin 2006 et moi j'arrive fin 2007.
D'accord, parfait.
Et donc qu'est-ce qui se passe avant la création c'est les deux vaches hein, la première marque. Qu'est-ce qui
oui
se passe
bien sûr.
Avant,
Alors la genèse.
Ouais,
la genèse
voilà.
Elle est chouette.
Elle est passionnante l'histoire.
Ouais, c'est plutôt une belle histoire. Donc en fait le début de l'histoire c'est Stonyfield Farm aux États-Unis. En réalité.
Voilà, donc on va peut-être expliquer ça aussi à ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas l'histoire dans sa totalité. C'est quoi Stonyfield en fait?
Ouais.
Et tu peux nous raconter un peu plus sur ça avant de parler de
bien sûr,
de Prairies Bio.
Bien sûr, avec plaisir. Donc Stonyfield Farm, c'est une magnifique entreprise aux États-Unis qui est dans les années 2000 le numéro 3 des vendeurs transformateurs de yaourt aux États-Unis. Donc c'est un peu la place aujourd'hui en France d'un Yoplait par exemple hein,
ouais.
En termes de poids aux États-Unis, avec quand même une spécificité qui est quand même tout de suite très intéressante, c'est qu'ils sont numéro 3 mais en étant en bio. Donc imaginez
c'est fou d'ailleurs parce que dans les années 2000, imaginez que le numéro 3 des yaourts aux États-Unis est bio alors qu'en France, enfin je connais pas les chiffres mais à mon avis le bio dans les années 2000, ça devait pas être grand-chose.
Non, et puis même encore aujourd'hui en 2019, ouais. Moi je suis le numéro 1 des yaourts bio en France et je suis très loin d'être le numéro 3 des yaourts en France.
Ouais.
C'est
complètement contre-intuitif, on n'imaginait pas qu'aux États-Unis le bio.
Pourquoi parce que je pense que les contextes, c'est important de comprendre ces contextes-là. Pourquoi aux États-Unis ils sont beaucoup plus bio et c'est pas la perception que moi en France j'ai des États-Unis.
Ouais.
Pourquoi les marchés des yaourts aux États-Unis, il est beaucoup plus bio qu'en France en fait.
Mais parce que alors c'est pas la réponse mais ça c'est le constat, il y a effectivement un niveau de maturité sur la consommation et sur l'organique comme on dit aux États-Unis qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus anticipé aux États-Unis qu'en France. Alors pourquoi? Alors, faut déjà dire une chose aux États-Unis, et on le sait très très bien, c'est qu'il y a quand même, il y a deux Amériques quand même. Hein.
Ouais.
Donc, il y a les États-Unis de la côte Est et de la côte Ouest, et puis il y a le reste des États-Unis. Donc, quand on parle de Stonyfield, en réalité, et de la consommation de produits bio en général aux États-Unis, on parle de la côte Est et de la côte Ouest.
Ouais.
Hein, faut déjà
ouais.
préciser ça.
Ouais.
Et c'est ça, bien tout le paradoxe de ce pays-là, c'est qu'il est excessivement en avance sur certaines parties du continent, et puis parfois très très
et
en
moins
retard
sur
d'autres. Et on voit bien de quoi on parle.
Ouais, exactement.
Ce sujet-là, effectivement, a toujours été très, très, très anticipé en avance aux États-Unis, parce que je crois, de même que en Europe et en France, Les États-Unis ont été touchés, comme en France, comme en Europe, par des crises alimentaires, avec des excès et des abus, touchant notamment à la viande, qui ont, je pense, très profondément marqué un certain nombre de consommateurs, de parties prenantes, d'acteurs, avec l'envie justement de changer de modèle. On part vraiment de très très loin aux États-Unis sur les pratiques, hein. Et c'est d'ailleurs, à contrario, ce qui explique que la bio dans les produits laitiers, par exemple, est mis plus de temps à s'imposer en France et enfin, en France particulièrement, parce que il faut le dire, ça c'est l'anecdote par exemple d'un Gary Richberg, qui est donc le CEO fondateur de Gary. Quand il arrive en France, je vous expliquerai du coup comment ça s'est passé, et qui a l'envie à un moment d'installer quelque chose en France, un peu identique de Stanfield, sa première réflexion, c'est de dire, mais en fait, ça l'anecdote est vraie, en fait ce que vous faites en conventionnel est assez proche de ce qu'on fait nous en organique, quoi. Hein, d'accord. Donc on comprend de d'où on part et du coup quel peut être
beaucoup
un moment
plus d'abus aux États-Unis, la production extensive avec je sais pas combien de milliers de vaches sur des champs.
Tout à fait. Et donc cet homme là qui dans un premier temps avant d'être entrepreneur est un enseignant en fait, un enseignant agricole. Il enseigne l'agriculture biologique dans un lycée agricole dans le Maine à des élèves avec l'idée via évidemment l'enseignement que justement de changer le modèle agricole alimentaire via l'enseignement. Et puis, à un moment, son lycée perd un certain nombre de ses subventions d'État, comme ça peut arriver aux États-Unis. C'est assez violent, ça va très vite. Alors, à un moment, il pense pouvoir sauver son lycée en vendant les yaourts qu'il transforme avec ses élèves en fin de semaine. Effectivement, il les vend, ça suffit pas à sauver le lycée. Le lycée ferme. Et donc, lui, il est effectivement très, très déçu. À l'époque, il hésite entre la politique et l'entrepreneuriat, et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait en réalité les deux sont intimement mêlés, et il se dit qu'il va faire de la politique en entreprenant, et donc il se dit
il voulait avoir de l'impact,
bien sûr. Et donc il monte sa boîte dont il veut que cette entreprise, il sait faire des yaourts, il sait ce que c'est que l'agriculture biologique, il se dit que son yaourt va avoir une conscience, et que ce yaourt va modestement contribuer à changer le modèle agroalimentaire. Et quand Danone arrive aux États-Unis dans les années 2000-2001 pour intéresser à racheter Stonyfield. Bien sûr, ils découvrent le troisième joueur aux États-Unis. Bien sûr, ils découvrent et ils se disent qu'en achetant le troisième et en étant le deuxième, ben deux et trois, ça va faire plus que un, et que le leadership va être pris aux États-Unis. Mais ça dure pas très très longtemps. Ce que découvre à l'époque donc Franck Ribou, c'est cet entrepreneur là qui est un entrepreneur complètement atypique et qui est aux prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui les bicorps, hein, dont je fais partie également.
On va parler plus tard des bicorps.
Voilà, mais qui sont des entreprises qui finalement ont complètement changé leur paradigme, c'est-à-dire que elles ont comme raison d'être exclusive et unique que justement d'apporter des solutions qui contribuent à régler la crise sociale et environnementale. Mmh. Et c'est ce que découvre Ribou à l'époque avec Stonyfield et avec Gary Richberg. Et donc ces deux-là se disent à un moment, bah peut-être que cette histoire-là augure de ce qu'on aimerait que Danone soit dans 20 ans, et on va essayer d'installer un modèle identique et un business identique en Europe. Et c'est comme ça qu'on en arrive doucement à les deux vaches.
Je vais juste couper pour dire une phrase qu'on a trouvé, une phrase dite par Franck Ribou à l'époque. Ce n'est pas Danone devenir cadré Stonyfield Farm, c'est Stonyfield Farm devenir impacté Danone, dès l'ouvert à d'autres modèles. C'est très beau qu'il dise ça en 2001, en fait.
Ouais. Parce qu'il a instantanément compris. Comment il fallait manager une entreprise comme celle-ci et quelle utilité elle devait avoir chez Danone. Ouais. Et donc finalement, là où nous on est fiers de ça, c'est que l'aventure américaine a duré, a continué aux États-Unis, et Stonyfield a continué à faire le job au sein de Danone aux États-Unis. Et c'est notamment Stonyfield, je pense, via la proximité avec d'autres entreprises pionnières dans le développement durable et la RSE, comme Patagonia par exemple, dont je parlerai avec plaisir si vous le voulez.
Bien sûr.
Que Gary a fait bouger Danone aux États-Unis, et nous à notre niveau, on a fait le boulot en Europe.
De s'inspirer du modèle de Stonyfield.
Exactement.
Stonyfield, c'est que États-Unis, hein. Il n'y a pas d'autres marchés, à l'époque.
Ce ne sont que les États-Unis.
C'est que les États-Unis, d'accord.
Vous n'avez pas voulu, ramener ces marques en France, en fait. Pourquoi vous êtes parti sur la création d'une nouvelle marque,
Ouais, alors, mais si, en fait. La petite histoire, tout le monde l'a oublié, mais il y a eu deux initiatives
avant les deux vaches
en Europe. En même temps que les deux vaches. Il y en a eu une en même temps que les deux vaches. Donc il y a eu deux initiatives en Europe, une initiative en France qui est les deux vaches, on reviendra dessus, et au même moment une initiative différente, et différente sous de nombreux aspects, et pas uniquement que le branding, en Angleterre sous la marque Stonyfield.
Ah d'accord.
En yaourt. Donc à l'origine, les deux pays sont choisis pour des raisons un peu différentes. L'Angleterre est pas forcément très mature sur la consommation de produits laitiers, mais par contre très avancée à l'époque sur l'organique. Mmh. La France est très avancée sur la consommation de produits frais, mais peu mature sur l'organique. Mmh. Donc, pour des raisons différentes, les deux pays sont choisis, mais les partis pris de branding et d'organisation surtout sont radicalement différents.
L'organisation qui fait la différence.
Ouais. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Aux États-Unis, cette marque Sunnyfield est lancée comme une marque de Danone UK. Dans le portfolio,
dirigé par
dans
les
le
mêmes...
portfolio de des marques.
C'est d'accord. Un copier-coller, enfin légèrement adapté au marché voilà. Anglais, mais
alors on... par contre, on essaye bien sûr quand même de s'inspirer de toute la profondeur de Stonyfield Farm, des combats, de l'engagement. On est aussi avec sur un yaourt avec une conscience, mais il n'empêche que c'est une marque de Danone UK. En France, l'option est complètement différente. Alors bien sûr, on n'a pas voulu utiliser cette marque-là qui n'était pas du tout à consonance française.
Compliqué,
donc
ouais.
on a travaillé et il y a la très très belle idée des deux vaches hein, bien sûr, mais on a réfléchi dès le début à la façon dont on allait s'organiser pour réussir à faire les choses différemment puisqu'on voulait faire les choses différemment. Et donc une des choses évidentes qui est arrivée dès le début, c'est de se dire si on veut faire les choses différemment, il faut qu'on s'organise différemment. Et donc il faut probablement aussi qu'on challenge nos gouvernances et la façon dont on gère les projets, surtout des projets break comme cela, surtout des projets qui ont une ambition démesurée sur justement le challenge du modèle agroalimentaire. Ouais. On peut pas lancer ça comme une marque de Danone. Donc on en arrive à la création de cette filiale et de cette démarche d'intrapreneuriat,
ouais,
qui consiste du coup à avoir une entreprise dans l'entreprise avec des gens qui viennent pour cette raison-là et avec un projet qui est non pas le projet d'une marque, parce que finalement une marque n'a pas beaucoup d'âme, une marque n'a pas de projet, une entreprise a un projet, une entreprise a une raison d'être. Et donc, si on veut que cette marque impacte et ait de l'impact sur la société, il faut qu'elle soit portée à l'intérieur d'une entité particulière, qui a une raison d'être particulière, qui est les Prairies Bio. Alors, qui s'appelait Stonyfield France à l'époque, et puis qui, depuis quelques temps, a changé de raison sociale et s'appelle les Prairies Bio.
Et ces constats, il est arrivé quand, en fait? Parce que là, aujourd'hui, on parle, il y a 15 ans, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'analyser les résultats.
Ouais.
Mais quand est-ce que chez Danone, on a pris conscience de ça, en fait?
En fait, on en a pris conscience immédiatement.
Ah, d'accord.
C'est le génie des deux, trois personnes qui ont réfléchi à cette organisation-là que d'avoir fait le pari de cette organisation en se disant, de toute façon, si on veut que cette équipe, que cette entreprise soit capable de délivrer ce qu'on attend d'elle, à savoir un modèle radicalement différent de ce qui existe chez Danone, alors il faut leur donner les conditions pour y arriver. Et la gouvernance de l'entreprise et l'organisation font évidemment partie énormément des conditions. Et donc, être organisé de cette façon-là, en intrapreneuriat dans un groupe comme celui-ci, c'est par exemple se donner la possibilité, bien sûr, d'être protégé par sa structure, donc d'avoir une certaine forme d'autonomie, d'avoir une certaine forme d'agilité,
ouais,
d'avoir un rapport aux chiffres, à la finance, au retour sur investissement, au temps, un peu différent, d'avoir une distance vis-à-vis de Danone suffisamment bonne pour avoir un peu de liberté et même parfois être super borderline,
ouais,
sans pour autant se faire attraper tout de suite, gros, mais ouais, d'avoir quand même malgré tout une distance suffisamment respectable et proche pour quand même profiter bien sûr des synergies, de la valeur ajoutée d'un groupe comme Danone, notamment sur toute la partie fonction support. Mais le truc qui est absolument génial dans cette histoire-là, c'est que nos grands patrons, à commencer à l'époque par Gary et Franck Ribou, assumaient tout à fait cette position-là et le mandat nous était donné de nous battre pour cette autonomie-là et de protéger cette organisation pour qu'elle puisse continuer à délivrer des choses qui sont pas classiques chez Danone.
Casse les codes de la grande entreprise.
Oui, on a tout un chapitre autour de la relation avec Danone, on va pas mal s'intéresser à ça. Et donc en revenant sur la genèse du projet, donc finalement on va lancer deux vaches en France.
Ouais.
C'est des yaourts, donc il y a un marché yaourt en France qui à l'époque était déjà très porteur, mais les bio étaient tout petits à l'époque en 2006, on parle de quoi, les marchés bio, yaourt bio, ils représentaient quoi? Même pas 1% du marché.
Oui, c'était peut-être un peu plus de 1%. C'était, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un marché aujourd'hui qui fait un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, les yaourts bio.
Et un pourcentage du marché yaourt, c'est quoi?
C'est presque 7% maintenant.
Ah, d'accord.
D'accord. Presque 7%. À l'époque, c'était un marché qui faisait entre 50 et 60 millions d'euros. On était effectivement sur un tout petit marché, ouais. Ah ouais. Et donc la question c'était
comment ça a été pour vous d'arriver avec un discours du bio dans ces matières-là, ouais. Parce que aujourd'hui on parle bio, c'est entre guillemets facile, il y a une demande consommateur qui est très très forte.
Ouais.
En 2006, c'était pas le cas. On disait là, et Philibert me disait, bah en 2000 ans, à l'époque des Stony Field, j'ai mangé des Twix. Et...
Ah, moi, c'est même, j'étais étudiant, je mangeais pas du bio. Quoi. En même temps, aujourd'hui, je mange que du bio.
Moi, aujourd'hui, je mange beaucoup des bio, mais j'ai commencé il y a pas aussi longtemps.
Bien sûr, bien sûr.
Donc je me suis dit en 2006, qui achetait du bio déjà?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, il y avait beaucoup moins de consommateurs. On était sur des consommateurs qui étaient quand même beaucoup plus durs. Ça, c'est une certitude, et ça a été d'ailleurs justement un des constats et un des partis pris sur à la fois bien sûr ce qu'on voulait apporter au marché à l'époque et la façon dont on allait s'organiser justement pour l'apporter au marché. Et c'est aussi une des raisons qui nous a poussé à avoir une organisation comme celle qu'on a. En fait, le constat à l'époque, il était très simple. On est arrivé sur un marché qui effectivement était petit et surtout sur lequel personne n'attendait Danone. C'est quelque chose de fondamental. Pourquoi personne n'attendait Danone? Parce que déjà à l'époque, et beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, ce marché étant quand même beaucoup plus occupé par ce qu'on appelle aujourd'hui, et sans être péjoratif, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais par les pionniers de la bio en France, hein, ceux qui font de la bio pas depuis 13 ans comme nous, mais depuis 30 ans. Hein, je pense à des gens comme Biocoop, par exemple, côté distribution, ou une entreprise qui maintenant est chez Björg, mais qui est Bonterre, par exemple, qui sont des entreprises très, très engagées. Donc, ces gens-là, très clairement, ne nous attendaient pas sur la bio, étaient même plutôt assez suspicieux.
Oui, te dire qu'un grand groupe alimentaire se met au bio.
Comme celui-ci. Avec, en plus, on l'a un peu oublié, mais une marque qui avait laissé un peu de traces dans le monde de la bio, qui est Activia, que vous connaissez certainement.
Oui, qui s'appelait
et qui,
bio,
avant de s'appeler Activia, s'appelait bio.
Ouais. Ah, je savais pas ça.
Voilà. Et qui, du coup.
Qui n'avait rien des bio, en fait.
Qui a dû changer de nom, justement.
Qui n'avait rien de bio, mais qui est né à un moment où le bio n'était même pas un sujet, quoi. D'accord. Donc, je crois, j'en suis même certain qu'à l'époque, la volonté de Danone n'était absolument pas de parasiter. Mais c'était comme ça. Donc, à un moment, quand même, il a fallu changer, ce que d'ailleurs a fait Danone. Bon, les grands acteurs de la bio ont trouvé que c'était un peu long, la transition entre bio et Activia. Donc ça a quand même généré des vraies tensions. Et voilà, une certaine forme de quand même d'agressivité vis-à-vis de la démarche de Danone. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on bosse différemment, il faut qu'on achète du temps parce qu'on va pas être crédible tout de suite. Mmh. Et puis surtout, dans une logique marché et attente, il faut qu'on apporte quelque chose que le marché à l'époque n'apportait pas. Et le constat a été assez vite fait dans les yaourts. À l'époque, le monde du bio, et plus particulièrement dans les yaourts, faut dire quand même les choses, c'est très sérieux, c'est très sain, c'est très blanc, comme on dit, c'est-à-dire que ce sont beaucoup de yaourts nature. C'est pas très fun, c'est pas très gourmand, c'est pas très non-blanc, comme on dit, donc fruits ou desserts. Mmh. Et très vite, on s'est dit, notre place, en fait, elle est là. Elle est là comme elle l'est d'ailleurs dans notre raison d'être et dans notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on veut changer le modèle agroalimentaire, mais on veut pas se prendre au sérieux. Ouais. On peut parler de choses sérieuses en restant joyeux et léger.
Dès le début, il y avait ce ton léger et décalé.
On peut faire des yaourts bio qui sont pas forcément des yaourts chiants à consommer. Et donc, dès le début, on s'est dit, on va apporter la gourmandise, on va apporter la générosité dans nos yaourts. Et donc, on s'est lancé dans des gammes qui n'existaient pas à l'époque pour apporter de la complémentarité au marché, de yaourts aux fruits, de crème dessert, avec, pour le coup, quelque chose de non négociable dans nos recettes, que de, à chaque fois, aller sélectionner des ingrédients de grande qualité pour, notamment, l'air de rien, être capable de jouer le jeu de la complexité du cahier des charges en transformation en bio. Il y a tout un tas d'ingrédients qui facilitent grandement l'industrie de la grande consommation, qui sont interdits dans la bio, notamment un certain nombre d'additifs. Quand on peut pas jouer avec ces règles du jeu-là, qui sont souvent plus pratiques, plus économiques, alors on n'a qu'un seul choix, si on veut être sérieux, c'est d'aller choisir les meilleurs ingrédients pour qu'ils viennent compenser ce qu'on ne peut pas utiliser. Un bon exemple, c'est les édulcorants versus le sucre. Les édulcorants sont interdits en agriculture biologique pour nous transformateurs, donc forcément le choix, c'est d'aller chercher les très bons sucres et de privilégier les ingrédients. Ce qu'on a fait, et ça nous a réussi, parce qu'aujourd'hui, je crois que nos yaourts sont considérés comme des bons yaourts.
Tu parlais de cahier des charges, justement, la charte engagement des deux vaches, c'est quoi? Enfin, justement, sur l'approvisionnement en matières premières, donc le lait, je pense que tu peux nous parler un peu du lait et de l'approche que vous avez par rapport à la filière amont.
Ouais. Ouais, alors le travail sur les filières, en fait, et dans l'ADN de, ouais. de l'entreprise dès le début, ouais. puisque à un moment justement, cette raison d'être très très forte qu'on a identifiée et dont l'inspiration vient clairement de Stonyfield, a été dès le début sur les filières. C'est vraiment ça quand même notre sujet.
La différence.
Le sujet, c'est les filières. Pourquoi c'est les filières? Parce que en fait, le début de l'histoire de lait de vache, justement, dans sa pourquoi on est là et à quoi on doit servir, c'est une problématique de filière en France.
Ouais.
D'accord. Je vous ai raconté l'histoire de Sonifi aux États-Unis. Nous, on est vraiment sur une problématique de filière. En 2007, on vient de passer une première vague très dynamique d'augmentation de la consommation et de la demande sur le bio.
Ouais.
D'accord. Et on passe par un creux.
Ouais.
Par une déconsommation, par une certaine forme de décélération, avec des éleveurs bio qui ont mis 2 ans à se convertir, qui arrivent en bout de conversion et qui n'ont plus de débouchés.
Ouais.
Et donc, on a été à l'époque très touché par ça, et on s'est dit, on doit trouver une solution pour eux, parce que ce modèle-là est globalement en amélioration par rapport au modèle conventionnel, et ce serait un cauchemar de voir ces éleveurs-là se déconvertir.
Il faut les accompagner.
Et donc le premier combat de lait de vache, c'est on va sauver les fermiers du bio, quoi.
Ouais.
Si je me rappelle, on l'écrivait comme ça. Alors ça avait un petit côté chevalier blanc.
un peu la première mission de la marque.
Belle mission, en tout cas.
On est né comme ça, quoi.
Oui.
Et donc la première façon d'élever les éleveurs, ça a été de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire de leur offrir des débouchés en développant le marché, ce qu'on a réussi à bien faire. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec ça, alors bien sûr, on améliorait la situation de ceux qui étaient présents. Mais on en avait très peu à l'époque. Hein. On travaillait notamment avec une coopérative qui s'appelle Biolay, hein, qui nous fournissait 100% de notre lait. Mais encourager derrière la conversion, après une période en plus de crise comme celle-ci, était un vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas, malgré la marque qui commençait à prendre sa place sur le marché, qui se développait, qui montrait sa crédibilité par rapport à des concurrents, on n'arrivait pas pour autant à encourager la conversion de nos éleveurs. Donc, très vite, on est passé dans une deuxième phase où là, pour le coup, on sort un peu de notre pôle d'excellence qui est celui de commercialiser des yaourts et de faire en sorte de faire du bon branding et de développer de la part de marché.
Là, on se démarque de Danone, justement, des savoir-faire de Danone.
Alors, Danone a quand même toujours été globalement beaucoup sur les filières, hein, parce que le modèle de Danone, c'est d'avoir des éleveurs en propre, hein, c'est pas d'acheter à une coopérative.
Mais là, on va plus loin, c'est ça?
Mais là, nous, on a été plus loin, mais par la force des choses, parce que, en fait, je le dis souvent, nous, les deux vaches, nous n'avons hérité de rien, ce qui est une vraie différence avec un certain nombre d'aventures chez Danone. Quand on lance une marque, il y a quelque chose qui existe, on crée une marque, et en fait, nous, quand on est arrivé, on n'avait absolument rien. Pas de portfolio, évidemment, de produits. Le branding, il a fallu l'inventer. Et puis surtout, ce qu'on n'avait pas, c'est les matières premières. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ingrédients bio, on n'avait pas de lait bio, on n'avait pas d'éleveur, on n'avait rien du tout, quoi. Donc, il a fallu aller chercher, je crois qu'on tape à la porte.
Ouais. Je crois qu'on va, ça fait partie des petits aléas de l'enregistrement dans une grande entreprise, c'est qu'on va devoir changer de salle.
ou pas, d'ailleurs.
D'accord.
Est-ce que tu veux négocier avec eux la possibilité de rester ici?
C'est ce que je vais essayer de faire.
Parfait. On va mettre une petite pause et on reviendra dans un instant. On reprend donc après cette courte interruption. On était où déjà? J'ai un peu
On était sur les filières. Et donc en fait, on s'est rendu compte très vite, n'ayant hérité effectivement de rien, et quand même la nécessité d'avoir à un moment un sourcing de lait bio pérenne, c'est que on n'arrivait pas à convertir nos éleveurs malgré les perspectives business favorables et rassurantes pour eux. Et donc là, on s'est posé un certain nombre de questions et c'est comme ça qu'on a quand même été beaucoup plus loin en profondeur dans la structuration des filières. Alors avec dans un premier temps des réflexes assez classiques de laiterie, hein, qui est de se dire bon bah si on a un problème à un moment de conversion alors qu'on a déjà coché le business, c'est qu'il y a peut-être un problème de rémunération. Non, on va dire les choses franchement. Donc on a regardé la rémunération et puis on a surtout essayé de regarder comment est-ce qu'on améliorerait pas uniquement sur le prix mais les conditions de contractualisation avec les éleveurs. Donc là on est rentré dans une démarche qui maintenant est aujourd'hui une démarche partagée par nombreux d'acteurs du lait, qui est de travailler par exemple sur des contrats long terme avec nos éleveurs. Donc on a mis en place des contrats long terme. Et puis à un moment on s'est dit on peut pas quand même non plus acheter notre lait sur la base de cours du lait bio ou conventionnel européen, français ou internationaux, ça ne fait aucun sens. Et nos éleveurs ont probablement un problème avec ça parce que eux finalement la rémunération de leur lait, c'est ce que ça leur coûte à produire. Et donc on en est venu rapidement à une logique de coût de production qui est aujourd'hui un des points importants, notamment dans le cadre des Galim. On a mis en place cela aussi. En mettant en place notamment ces deux points qui sont fondamentaux, ça n'a pas beaucoup plus bougé.
Ça n'a pas suffi, d'accord, ouais.
Donc on était assez déçus et on s'est dit, mais mince, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on a lancé, on a 3 éleveurs convertis. Heureusement qu'on avait encore Biolay. Que se passe-t-il, ouais. Quoi? Quel est le problème?
Quels étaient les freins pour eux de là?
Et en réalité, à discuter, bien sûr, avec eux, à essayer de comprendre pourquoi on n'avait pas plus de conversion. La problématique qu'on a identifiée, c'est que nos éleveurs, à l'époque, là, on parle de ça, il y a maintenant pratiquement plus de 10 ans, étaient très seuls, en réalité, chez eux, en Normandie. Peu aidés. Peu soutenu. Un éleveur laitier qui se convertissait en bio dans les années 2007-2008, il était un peu vu comme un farfelu, comme un dingue, et les voisins producteurs agriculteurs étaient plutôt à le critiquer et à lui jeter des cailloux qu'à essayer de l'aider.
Ça prend combien de temps la conversion en
2 ans.
2 ans.
Ouais. 2 ans. Mmh. Et moi je me rappelle d'éleveurs qui me disaient mais attends, mais moi aujourd'hui pour avoir des tuyaux sur l'agriculture biologique, je vais sur internet. Je vais voir des témoignages d'agriculteurs anglais ou américains, je comprends rien, je suis perdu. Enfin, les gars, ils étaient...
Ils sont pas accompagnés du tout.
D'accord. Absolument, ouais. Pas accompagnés. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose pour ça. Et donc, on a créé Reine Mathilde.
Ah, c'est ça.
Tu peux expliquer un peu, ouais, sur les programmes Reine Mathilde, à quoi ça consiste?
Donc ça, c'est mon prédécesseur, Daniel Tira, qui était directeur général de l'entreprise, qui a eu cette idée géniale, que de se dire, en fait, le vrai problème, il est là. Comment est-ce qu'on encourage la conversion de nos éleveurs en développant la technique, la maîtrise de leur exploitation bio, avec en plus, bien sûr, une idée géniale, qui est de se dire, en plus, on va essayer de mettre en place des modèles d'agriculture bio en élevage laitier, qui sont ceux dont on a envie. Nous et les agriculteurs. C'est-à-dire que parce qu'on peut faire de la bio plein de façons différentes, en réalité. Nous, ce qu'on a voulu privilégier avec Reine Mathilde, c'est un système qu'on appelle extensif en prairie, qui favorise l'autonomie alimentaire des fermes, et dans l'autonomie alimentaire des fermes, l'autonomie protéique. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait quasiment 100% d'autonomie protéique pour les vaches issues de la ferme. Donc un modèle qui est extrêmement vertueux, puisqu'il y a très peu d'intrants, très peu de matières premières achetées, et quand, d'accord, elles sont achetées, elles sont françaises.
D'accord.
En aucun cas, elles viennent de l'autre bout du monde, donc très peu de soja, bien sûr, et en général, très peu d'intrants. Donc c'est cette expertise-là qu'on a travaillé via Reine Mathilde, on a mis autour de la table de façon tout à fait collaborative, et cette méthode-là, on l'a dupliquée 15 fois depuis sur plein d'autres projets, jusqu'à même des projets business et des marques, ouais, parce qu'on a lancé Fermien de la même façon.
D'accord. Mmh.
C'est-à-dire qu'on a mis les experts de la bio autour de la table, alors qu'ils ne se mettaient jamais autour de la table en Normandie, et on les a fait travailler ensemble pour faire monter en compétence nos éleveurs.
Les experts de la bio, c'est qui? C'est quel
des représentants et des techniciens des chambres d'agriculture.
D'accord.
Qui avaient à l'époque déjà une forme de connaissance, mm-hmm, mais qui ne la rapprochaient pas d'autres experts, donc l'Institut de l'élevage par exemple, Littoral Normand, Agrobio, qui était une association en marge des chambres d'agriculture, mais qui était spécialisée pour le coup dans l'agriculture biologique. Nous, les gens, ouais, chez nous, bien sûr, les éleveurs. Donc, on a mis toutes ces personnes-là autour de la table pour développer.
Les concurrents aussi, non? J'ai vu que Tribala aussi faisait partie de Reine Mathilde.
Et tout, ouais, à fait. Ouais, et tout, d'accord, à fait. Biolay et Tribala, ouais, qui sont venus pendant quelques années comme valeur ajoutée sur la recherche de solutions. Leur rôle a été celui-ci dans un premier temps. Et on a même été effectivement, en deuxième version, jusqu'à co-financer avec notre premier concurrent.
Avec vos concurrents, c'est original. Vous avez un intérêt commun.
Mais bien sûr. La filière. Bien sûr, parce que de toute façon, dès le début, ce projet-là a été ouvert à tous les acteurs, ouais, de la bio, souhaitant se convertir en agriculture biologique ou étant déjà en agriculture biologique, mais souhaitant s'améliorer sur les pratiques.
C'est limité au bassin Basse-Normandie ou c'est national? Non, c'est Basse-Normandie.
Ouais, on a vraiment été sur un projet écosystémique en Normandie, pour faire de la région Basse-Normandie à l'époque une des régions expertes en agriculture bio.
Et j'ai regardé un peu les volumes des productions bio. Là, j'ai lisais un article qui parlait que les volumes en 2018, il a augmenté des 53% par rapport à 2015. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, ça commence à porter ses fruits, en fait.
Oui, tout à fait, mais ça a mis du temps.
Ouais, je vois, 10 ans.
Ça a mis du temps, et j'en reviens encore à la valeur ajoutée extraordinaire de l'organisation qu'on a mis en place pour réussir à faire ça. Je pense que si on avait été organisé différemment, on aurait fait Reine Mathilde peut-être, parce que les bonnes idées peuvent quand même émerger d'autres types d'organisations. Mm-hmm. Mais je pense qu'on n'aurait pas eu la patience d'attendre.
Mm. J'avais une question par rapport à cette organisation dès la genèse. C'est des gens de Danone qui viennent créer cette cellule d'innovation interne, enfin des prairies bio, ou
ce sont des volontaires?
Vous avez fait appel à des profils extérieurs?
Peu à l'origine. Depuis, oui, on en a eu de nombreux dans l'équipe, bien, d'accord, sûr. Mais ce sont surtout des Danoneurs comme moi,
ouais,
qui à un moment ont levé le doigt en disant « moi, cette aventure m'intéresse ».
Et les profils, c'est justement des gens qui voulaient se lancer soit eux-mêmes dans l'entrepreneuriat à un moment, ou voir dans l'entrepreneuriat, et qui ont trouvé une super occasion d'aller d'aller se tester, tout en gardant la sécurité entre guillemets du grand groupe derrière. Enfin, c'est pas que.
Ouais. Plusieurs types de motivation. Bon, à l'origine, c'était pas compliqué. On était trois, hein, donc je peux parler. Ou je peux parler surtout des deux, puisque la deuxième personne est toujours à mes côtés. Hein.
Au tout début, vous étiez trois, donc les trois. Donc c'est.
Il y avait un marketeur, comme on dit, un commercial et un financier.
Et le DG, le premier DG, tu dis. C'était,
on a même
pas toi,
on a même commencé avec un DG qui était le directeur marketing de Stonyfield Farm aux États-Unis et qui nous gérait. De Boston.
Ah, donc il y avait un Américain.
Enfin, c'était même pas un Américain, mais il était chez Stonyfield. Donc on a fait un an et demi à trois. Ensuite, Daniel est arrivé, Daniel Tira, comme directeur
général.
Toi, t'as
vraiment fait partie de l'équipe de début.
Du début.
Et t'étais plutôt sur
les
sujets commerciaux.
Sur le commerce.
Donc dans la continuité de ce que tu faisais avant.
Exactement. J'étais sur le commerce. Mais donc, on est rentré, notamment Aude, Gamberini, qui est directrice marketing et communication, qui est toujours là, qui est arrivée 6 mois après moi.
D'accord.
Je le dis souvent, on est rentré pour des raisons complètement différentes, tous les deux.
Ouais, c'est bien.
Elle était aussi déjà un petit peu au bout chez Danone. C'est une consommatrice bio ultra engagée, avec une très légère orientation même végétarienne, voire végane.
Ah d'accord. Okay.
Donc
engagement très fort.
Elle a amené cet engagement-là, et c'est pour ça qu'elle est rentrée dans cette aventure-là. Elle voulait faire bouger les lignes chez Danone avec ses convictions. Moi, je l'assume. Je suis pas rentré pour ça à l'origine.
Toi, t'es rentré plutôt pour l'aspect.
Moi, je suis rentré pour
l'entrepreneur.
Je suis rentré pour l'entrepreneuriat.
Mais depuis maintenant, t'es convaincu, parce que t'en parles bien, donc j'imagine que c'est sincère.
Parce que j'ai été transformé, moi aussi, j'ai été converti.
C'est qui t'a converti? C'est l'équipe de Stonyfield, justement, ou c'est?
Ah, c'est évidemment en premier
Gary,
la proximité avec un patron comme Gary, c'est évident.
Gary a été ton patron pendant donc les premières années.
Oui, et puis on a eu un niveau de proximité très très fort avec lui. D'accord. Il venait très très régulièrement, on a eu la chance d'y aller aussi. Donc on échangeait beaucoup, il était là pour ça, c'était pas en réalité notre patron, mais c'était un de nos stakeholders, quoi, hein, une de nos parties prenantes. Et donc Gary, oui, nous a beaucoup beaucoup inspiré, que ce soit sur l'agriculture biologique ou même d'une certaine façon sur la raison d'être d'une entreprise.
Ouais, c'est ça, sur l'approche.
C'est vraiment
le rôle social de l'entreprise.
Et l'anecdote dont je parle parfois, il est arrivé un jour de Noël, je sais plus, en 2008 ou 2009, avec une magnifique fourrure polaire Patagonia. On connaissait Patagonia comme un peu du North Face.
Ouais.
Mais d'ailleurs, les boîtes ont eu beaucoup de points communs au début. Mais on n'en savait pas beaucoup plus. Et grâce à ce cadeau de Noël qui nous a amené, il nous a un peu expliqué la genèse et l'histoire de cette boîte. On sortait tout juste du Black Friday et du coup absolument extraordinaire qu'avait fait Patagonia à l'époque à New York. Je ne sais pas si vous connaissez
cette
histoire-là.
Non, mais je veux bien la
nous expliquer. Ouais.
parce que moi, je considère que c'est un des déclics pour
d'accord,
moi.
D'accord, vas-y.
C'est là qu'à un moment, je me suis dit ouais, ok, intrapreneur, c'est bien, mais je crois que je le fais pas exactement de la même. Enfin, c'est pas comme ça que je l'avais envisagé, et je pense que de l'envisager comme ça, ça va m'intéresser un moment. Alors que si je continue à l'envisager comme je le fais aujourd'hui, va me fatiguer. Hein, il vient donc avec cette fourrure-là. Il nous dit, vous connaissez Patagonia? Oui, on connaît Patagonia. Bah, Patagonia vient de faire un truc extraordinaire. Donc c'était Noël, on venait de passer du coup toute la période du Black Friday, qui était déjà à l'époque, il y a une petite dizaine d'années, une frénésie aux États-Unis. Hein, ça l'est devenu malheureusement
mondial, en
Europe, mais déjà à l'époque c'était ça. Et donc Patagonia, qui évidemment était un peu embêté avec cette histoire-là, puisque c'est vraiment pas du tout le modèle. Le jour du Black Friday à New York, placardé partout dans New York. Alors déjà a commencé par fermer ses magasins.
D'accord. Les jours du Black Friday, ils ferment leur magasin. Ouais. Ouais, c'est énorme.
Et à la place, ils ont placardé partout dans New York une affiche énorme avec une fourrure polaire Patagonia. Et dessus, c'était marqué « Please, don't buy this jacket ». D'accord. Et alors, ça s'arrêtait pas là, bien sûr. Il y avait évidemment les raisons pour lesquelles il n'est pas nécessaire de systématiquement racheter une fourrure polaire Patagonia. Donc, c'était évidemment aussi une façon de valoriser et d'expliquer le travail extrêmement consistant et sérieux de cette marque-là sur la durabilité de ces produits. Donc c'est un coup de génie absolument incroyable, parce que instantanément derrière, la croissance de la marque a été en fait boostée, bien sûr à New York, alors peut-être pas dans le Middle West, mais à New York de façon considérable. Et surtout, par ce biais, Patagonia a fait passer un message extrêmement politique. On en revient à ça, c'est-à-dire que oui, moi je considère, comme eux, comme Stonyfield, que les entreprises sont des acteurs politiques de la société. Si justement,
elles changer justement
elles, comme, elles comme les autres.
Comme les autres, mais elles,
mais elles doivent contribuer aussi à ça. Et quand Patagonia fait ça, ils contribuent à ça.
Bien sûr. Et si, et c'est intéressant de parler de Patagonia parce que nous, on voulait aborder les sujets B Corp avant de parler de ça. L'engagement aussi de les prairies bio va au-delà du produit, de la démarche au niveau de la filière. On voit aussi qu'au niveau du packaging, de l'usage du plastique, vous commencez aussi à investiguer d'autres options. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça?
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, il faut être aussi assez humble là-dessus. Hein. On est très, très loin d'être parfait. Et on n'a pas pris conscience de tous les enjeux tout de suite. Mmh. D'accord. Il y a des choses qui nous ont semblé évidentes très vite, notamment tout ce que je vous ai raconté sur les filières. Il y a d'autres enjeux qu'on a découvert et dont on a pris conscience plus tardivement. Et je pense que je l'assume d'ailleurs, hein, en toute honnêteté, je pense que le sujet des emballages a longtemps pas été un sujet chez nous. C'est-à-dire qu'autant on s'est beaucoup intéressé aux filières, autant on a été les tout premiers à parler du bien-être animal également et à faire des choses très très concrètes, jusqu'à même la rémunération en fait de nos éleveurs sur des critères de bien-être animal. Autant le sujet des packaging n'a pas été un sujet traité tout de suite. En fait, le moment de vérité sur les packaging, c'est quand, victime de notre succès, il y a maintenant plus de 2 ans, on s'est posé la question du renouvellement de notre ligne de production, puisque cette ligne était saturée, il fallait la changer. Et donc, avec Aude, à l'époque, on s'est dit que, bah, bien sûr, il était hors de question qu'on re-signe pour 10 ans pour une ligne qui allait thermoformer des pots de yaourt en PS. Mmh. Et qu'il fallait, à un moment, en plastique.
Issue de matière fossile.
Ouais, issue de matière fossile. Et qu'on pouvait pas repartir de cette façon-là. Donc, on s'est posé les bonnes questions. Et le fait, bien sûr, de se poser ces questions-là nous a amené bien plus loin encore que le pot auquel on a abouti, qui est déjà une belle avancée, puisqu'effectivement, on a switché d'un pot en PS, en plastique, ouais, plastique d'origine fossile, à un pot en PLA, donc polylactique acide, qui est toujours du plastique, hein.
Ouais.
Attention, mmh, hein, c'est toujours du plastique, mais c'est un plastique d'origine végétale, puisque là, la matière première utilisée pour polymériser est du sucre,
c'est du sucre
de canne. Voilà. Donc, on n'est pas sur une solution clairement miracle. D'ailleurs, on en a.
C'est recyclable, c'est géré par, je sais plus quoi, Citeo, c'est ça. Là, où,
alors il y a des enjeux de recyclabilité, ouais. Mais on n'y est pas encore.
Pas encore, d'accord.
Il y a des enjeux de biodégradabilité, où là, pour le coup, le PLA offre des avantages qui sont quand même supérieurs, bien sûr, au plastique classique, parce que naturellement, mais c'est surtout pas ce qu'on va faire. Le PLA se dégrade beaucoup plus vite que le plastique. Et donc, du coup, dans le cadre d'un compostage industriel, pour peu que notre peau soit validée, OK, compost industriel, alors là, ça va très, très vite, ça se dégrade très vite. Donc, le PLA a été pour nous, effectivement, une évolution. Le moins mauvais des choix,
ouais.
Pour faire mieux, faire toujours mieux, comme on le dit par rapport au PS. Il a eu aussi un énorme avantage, c'est qu'il a remis la problématique de l'emballage au cœur.
Ouais.
Des enjeux du modèle agroalimentaire. Ouais. Et donc, après le PLA, sont venus très très vite d'autres types de challenges sur d'autres types d'améliorations absolument nécessaires dans notre gamme. Et donc, c'est marrant, j'étais ce matin justement sur une intervention sur ce sujet-là. J'ai bien sûr parlé de ce qu'on avait fait en PLA, mais en étant ni très fier, ni complètement négatif, bien sûr, sur la démarche, mais en étant neutre sur l'approche, en disant c'est mieux.
Parce
qu'on réduit l'empreinte carbone, hein, quand même, hein, de façon assez considérable.
Vous connaissez la marge de progression. Et vous savez quel est l'objectif pour améliorer ça.
L'intérêt, c'est que passer en PLA nous ouvre d'autres perspectives d'amélioration, même sur le PLA en tant que tel, hein. Parce qu'on peut faire du PLA en sucre de canne, mais on peut faire du PLA avec des déchets alimentaires, plutôt que de la matière première alimentaire.
Ouais.
Aujourd'hui, on est en foot compétition, comme on dit, hein, sur notre PLA. Demain, on pourrait ne plus l'être en utilisant par exemple les déchets de la canne à sucre, par exemple des algues, par exemple du thylé,
des choses qui sont plus locales,
hein, voilà, on peut faire du PLA avec plein de choses, donc c'est ça nous qui nous a intéressé, et c'est pour cela qu'on s'est lancé dans cette démarche là mais à la fin, le endgame, quand on fait des yaourts comme les nôtres, c'est d'essayer d'avoir le moins d'emballage possible, c'est vraiment ça. Donc depuis, on s'est mis dans une logique d'accélération très très forte là-dessus, donc d'essayer de passer sur des contenants plus conséquents, sortir de nos pots de yaourt de 115 grammes,
ouais,
parce que c'est quand même pas optimum, et s'intéresser très très fortement à des solutions de vrac, par
le
exemple,
vrac,
qu'on a expérimenté.
J'ai vu sur la marque Faire Bien, un prototype dans un débat idée dans le
17e. Tout à fait.
Et ça, je pense que c'était un prototype, hein, c'est pas encore.
C'est le premier pilote.
Il y a des problématiques juridiques, des problèmes d'hygiène.
Disait que les yaourts, c'est pas les produits les plus simples à vendre au vrac, en fait.
Non, un produit frais comme celui-ci en vrac, c'est assez compliqué. Si d'ailleurs, avant nous, personne n'a réellement réussi à le faire, c'est qu'il y a quand même des bonnes raisons. Je pense qu'il y a eu des gens bien intentionnés comme nous avant nous, quand même. Mm-hmm. Et donc, les barrières sont fortes. Ceci dit, le cadre et le contexte juridique est en train de considérablement changer sur le vrac. Vous avez notamment des réseaux d'influence sur
bien
le vrac,
sûr,
de, le réseau vrac, réseau notamment, vrac, qui fait un travail considérable pour faire bouger la loi et pour justement laisser possible quand même l'utilisation de produits frais en vrac. La plus grosse des questions étant en fait le champ de la responsabilité pour notamment le consommateur à partir du moment où il a le produit dans les mains et que c'est son contenant qu'il a utilisé, non
oui,
pas.
Qui n'est pas forcément propre et qui peut du coup créer des problèmes.
C'est
vrai qu'en même temps, on voit que le vrac, enfin, à Paris, typiquement se développe, on a de plus en plus d'enseignes vrac qui ouvrent, donc il y a forcément, à un moment, les consommateurs s'y intéressent, il faut que les marques puissent
se positionner. À côté de chez moi, j'ai juste une petite anecdote, on a une petite boutique qui s'appelle Kilogramme, qui a ouvert comme ça, il y a un an, et c'est un carton, mais c'est plein tous les jours, les gens qui achètent leur shampoing, et du coup, ils se disent, mais en fait, si je peux l'acheter un vrac, je peux le faire moi-même, et ils se lancent à faire de la lessive. On voit que les consommateurs, là, ils ont envie, ils sont prêts, ils sont demandeurs aujourd'hui.
Mais on voit pas beaucoup de produits frais dans les magasins vrac.
Non.
Donc, je comprends que c'est encore un défi.
Non, on n'en voit absolument pas, mais on va y arriver, je pense. Avec de l'ambition et de l'envie, on va y arriver. Bah, des échéances, non. Alors, c'est pas trop le genre de la boîte. Donc, c'est des échéances précises. C'est la meilleure façon de mal faire les choses.
Ouais.
Nous, on dit souvent qu'on le fera quand on sera prêt.
Ouais.
Parfois, on a pris plus de temps que prévu. Parfois, ça a un petit peu découragé mes actionnaires chez Danone, mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont contents quand même, parfois, qu'on ait pris le temps de faire les choses correctement.
On doit avancer sur d'autres sujets. Juste pour terminer cette partie filière, si tu peux juste nous expliquer, parce que là, vous êtes une société qui a eu le label, accès au label Bicorp, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement, en fait, en quoi ça consiste et quelle est votre vision par rapport à ça?
Oui, bien sûr. Bicorp, on est certifié Bicorp depuis 3 ans. On est réassessé cette année. Ça va être un grand moment pour voir si on a progressé. Bicorp, c'est avant de parler de certification, c'est un état d'esprit et c'est une communauté surtout.
Mm-hmm.
C'est une communauté de 2500 entreprises dans le monde. Beaucoup d'entreprises quand même américaines à l'origine puisque le mouvement est parti de là-bas. Mais intéressant d'expliquer d'où c'est parti parce que c'est exactement notre problématique. Elle est identique. Aux États-Unis, certains États interdisent aux entreprises de réfléchir une partie de leur création de valeur, donc de leur profit, à destination de fondations, de fonds. C'est pas possible dans certains États américains. Donc, ce ne sont que les actionnaires qui récupèrent la création de
valeur. Ouais.
Et donc, les fondateurs de Bicorp, Bilab, qui est l'organisme qui porte Bicorp, en fait, à l'origine, sont des juristes surtout, ont travaillé sur une façon de contourner ce blocage législatif et de trouver une solution pour que soit possible le fléchage d'argent vers des fonds et vers des fondations. Et donc, c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à cette démarche de certification ultra exigeante via 200 questions qui sont super challengeantes sur toutes les dimensions de la RSE et du développement durable et qui, du coup, à la fin, via la certification ou pas de l'entreprise en Bicorp, donne la légitimité à l'entreprise de pouvoir inscrire dans les statuts sociaux de son entreprise une raison d'être qui n'est pas uniquement que celle de son activité.
Mmh.
Chez nous, transformer du lait en yaourt et commercialiser un très très bon yaourt. Donc, c'est vraiment, j'ai une raison d'être, donc ce qu'on appelle maintenant les entreprises à mission, hein, le mouvement est en train de beaucoup monter en France, j'ai une raison d'être, mais Bicorp me légitime cette raison d'être et son impact, vérifie que je ne suis pas sur du mission washing, comme on dit.
Tout à fait.
D'accord. Et donc, si j'ai la note suffisante et minimum de 80 points, Alors, je peux inscrire cette raison d'être-là au sein des statuts de mon entreprise. Ce que j'ai fait. Et ce qui a un énorme avantage, on en revient toujours à ma gouvernance et à mon modèle d'organisation, c'est que, alors j'ai pu le faire aussi parce que j'étais une filiale, une entreprise en tant que telle. Je n'aurais pas pu le faire si j'étais une marque.
Ouais.
Okay. Je l'ai fait et en le faisant, j'ai fait voter par mon seul et unique actionnaire qui est Danone, cette raison d'être particulière que je vous ai donnée tout à l'heure sans peut-être que vous y prêtiez attention, mais qui est globalement de faire partie de la solution. C'est-à-dire, et de contribuer via notre activité de transformateur de lait en yaourt à la résolution de la crise sociale et environnementale et, second point, inspirer les autres pour faire en sorte qu'on soit pas tous les seuls, nous, à avoir de l'impact, mais que l'impact soit beaucoup plus gros. Et dans le inspirer les autres, quand on est une filiale de chez Danone, on parle déjà de Danone.
Bien sûr.
Ça, aujourd'hui, c'est écrit dans la raison d'être, dans les statuts de la société.
Ouais, et voté par mon actionnaire.
Ouais.
Ce qui est intéressant parce que quand on est sur des choix compliqués d'arbitrage, le rapport au temps, le rapport à l'argent, le rapport à la profitabilité. Je peux poser.
Ouais, cet argument, c'est cohérent par rapport à cette
Et vous l'avez voté.
Ouais.
Bah, j'hésite à sauter directement sur la relation avec Danone.
Avec le groupe,
bah,
je pense que si, on peut.
Ouais. Et venir, on va faire ça et après on reviendra un peu sur la partie marque et chiffres qui nous intéressent aussi. Mais c'est vrai que la relation avec Danone, elle est très intéressante. Ça nous a intrigué, investigué un peu plus sur l'activité de vache et faire bien. Notamment, on voit deux dimensions. On voit là, tout ce que je disais au départ, que c'est Stonyfield d'impacter Danone. Je suppose qu'aujourd'hui il y a une vision qui est c'est à les prairies bio d'impacter Danone, mais en même temps les prairies bio, tu vas nous parler des chiffres, mais fait entre 50 et 70 millions d'euros et Danone de son côté fait 25 milliards d'euros. Donc comment ça se passe cette relation? D'abord, qu'est-ce que Danone vous apporte et qu'est-ce que vous apportez à Danone?
Alors déjà, Danone nous apporte depuis le début une vraie forme d'excellence dans l'exécution de nos projets sur ce qu'on appelle traditionnellement et de façon péjorative les fonctions support. Mais elles sont fondamentales quand on est start-upper comme nous en interne. Et je le dis souvent, un exemple, on passe par la force de vente de Danone, par exemple, pour pousser nos...
C'est la même force de vente qui vend nos produits. Ça a toujours été les cas?
Toujours.
D'accord.
C'est vraiment, ça fait partie, ça, du modèle et de la réussite aussi. On n'aurait pas eu les vendeurs de chez Danone, on serait sûrement pas là où on est aujourd'hui en termes de présence en magasin. Donc, Danone nous apporte ça. Danone nous apporte aussi, je le dis souvent, j'ai la chance d'avoir un banquier sympathique.
Oui, le financement.
voilà. Et donc, c'est ce qui quand même me distingue et rend globalement mon job d'entrepreneur plus facile qu'un vrai entrepreneur start-upper. C'est que j'ai quand même un banquier qui est là, qui nous a toujours fait confiance.
Si on peut en parler, aujourd'hui, les Prairies, c'est une société qui est rentable ou, enfin, je sais pas si tu peux en parler.
Si, je peux en parler de façon tout à fait ouverte. Les Prairies Bio, Stonyfield au début, n'a pas été rentable pendant de longues années. On a mis 5-6 ans à être au break-even, comme on dit, à l'équilibre.
D'où l'importance d'avoir le groupe Danone derrière.
D'où l'importance d'avoir aussi des très bons sponsors qui sont capables de prendre un peu de hauteur sur notre histoire. Et de temporiser auprès de ceux qui, et c'est normal, sont un peu plus pressés parce qu'ils sont sur un agenda qui est un peu plus court terme. Et donc de pendant de très longues années, effectivement, Gary, Franck Ribou nous ont aidés. Aujourd'hui, Emmanuel Faber est aussi excessivement supporter du projet. Parce que justement, il sait aussi que on apporte à Danone. Donc, et on apporte à Danone, bien sûr, sur notre business et sur l'activité en tant que telle en bio. On a conforté Danone il y a 2 ans dans le choix d'accélérer sur la bio, puisque Danone avait cette chance-là qu'en interne, un joueur était présent et on pouvait se rendre compte du succès, de le mesurer, avec maintenant un modèle qui est profitable.
D'accord, donc maintenant on est profitable.
Ouais, qui est profitable et qui est peu ou prou au niveau des standards de profitabilité, des KPI de profitabilité d'une entreprise de produits laitiers frais de chez Danone en France.
D'accord, super. Donc paris gagné, quoi.
Paris gagné.
Et juste pour boucler la partie chiffres, là on parle donc d'un rentabilité. Les dernières infos des CA qu'on avait, c'était de 50 millions en 2017, mais avec une croissance assez rapide.
Soutenu, 20%.
2019, vous estimez quoi comme chiffre?
Alors, souvent, moi, les chiffres que je donne sont des chiffres qui sont ce qu'on appelle le sell-out, donc les sorties
caisses. Bien sûr.
Donc, effectivement, là, on va finir 2020 sur le sell-out. On va être au-dessus de 60 millions d'euros.
Voilà. 2019, puis après, tu veux dire? Non.
J'ai dit
2020, ouais.
2019.
Voilà. Et donc,
avec des niveaux de croissance qui sont
25%
soit égal à la croissance du marché, soit même cette année, et on est très satisfait de ça, des niveaux de croissance qui sont même supérieurs au marché. Ce qui est intéressant quand on est une marque comme la nôtre, puisqu'on est quand même considéré aujourd'hui comme une marque historique, et que en étant un historique, évidemment, quand le marché accélère très très fortement par l'arrivée de nouveaux entrants, c'est quand même plus compliqué d'être très très dynamique. Et on réussit ça cette année.
J'ai l'impression que c'est les plus forts taux de croissance du groupe, non? Ou il y a d'autres marques qui performent aussi bien dans le groupe?
En France, avec de l'historique, on va dire, on est sur les niveaux de croissance les plus forts.
C'est les plus forts du groupe, ouais. De toute façon, c'est le marché bio qui aujourd'hui, de toute façon, on voit.
Et bref, que ce soit en interne chez Danone ou sur le marché vis-à-vis de nos clients, on est souvent dans les trois marques les plus contributrices à la création de valeur du marché en ultra frais.
Bravo, alors.
Super. Donc, si on revient, pardon, avec la relation avec Danone. Ouais. Ouais. Donc, Danone vous apporte toute cette force des frappes, en fait, et qu'une start-up indépendante n'est pas. Ouais. Et qu'est-ce que vous apportez à Danone?
En fait, on a déjà apporté à Danone beaucoup de choses qui sont d'ailleurs pas de l'ordre de l'innovation pure sur une nouvelle recette de yaourt. En réalité, le sujet est pas là. On a apporté à Danone tout le reste en réalité. Donc, je parlais tout à l'heure des structurations de filières, de la relation à réinventer avec les éleveurs. Bah, nous, on a été très fiers il y a 4-5 ans que Danone, en conventionnel, ce qui est un choix extrêmement courageux, s'inspire de nos pratiques qui sont quand même plus faciles en bio, hein, puisqu'il y a quand même un peu plus d'argent, mais qui s'inspire de nos pratiques sur la contractualisation long terme, sur les coûts de production, ce que fait Danone aujourd'hui, par exemple.
Ouais.
Donc là, on est
sur le conventionnel.
Bien sûr. Ouais. Ce qu'on est en train de faire, par exemple, aujourd'hui sur l'équitable, qui est donc une forme de contractualisation encore plus exigeante, hein, encore plus sécurisante pour les éleveurs, parce que finalement c'est chouette, hein, de parler d'agriculture biologique, de parler d'exigence, de parler de cahier des charges en agriculture biologique pour avoir le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais si vous demandez ça aux éleveurs et que parallèlement à ça, vous ne leur donnez pas la sécurité dans la contractualisation, avec en plus une activité qui est celle du vivant quand même, hein, puisqu'on parle de vaches, de prairies, avec un climat qui quand même est de plus en plus compliqué pour eux, si vous ne les accompagnez pas d'une contractualisation équitable, alors la démarche d'exigence en bio n'a pas de sens. Donc nous, on a réalisé ça, c'est vraiment intimement lié cette histoire-là. Et donc le contrat équitable, aujourd'hui, on est en train de l'expliquer, de le communiquer, de le montrer chez Danone, pour que d'autres entités de chez Danone, que ce soit en lait ou sur d'autres types d'activités, passent en équitable, parce que ça nous semble être effectivement un très bon modèle. Donc ça, on espère, on garde surtout pas ça pour nous. On espère encourager les autres, que ce soit chez Danone ou en extérieur. Après, il y a eu d'autres avancées très très significatives. Quand je vous ai parlé du bien-être animal, aujourd'hui, chez Danone, le sujet est un sujet. Il y a 7 ans, quand on a fait un spot télévisé sur le bien-être animal, je peux vous dire que ça a été cauchemardesque pour réussir à passer ce spot télévisé vis-à-vis de Danone. Heureusement qu'on a été soutenu par des parrains très très hauts qui nous ont dit mais faites-le, bien que ça gratte très très fortement, faites-le quand même. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On est sur un sujet qui est porté, qui est assumé par Danone. On a préparé ça aussi. Et puis après, sur la relation consommateur, c'est un petit peu la même chose. Nos techniques, notre façon d'interagir avec le consommateur sont aujourd'hui reprises et on a inspiré Danone. Quand on challenge les médias, le mass média, quand on challenge la nature de la du message qu'on veut porter aux consommateurs, quand on explique qu'on veut être une entreprise qui n'est pas auto-centrée sur elle-même, mais qui, quand elle communique, passe des messages engagés, comme tout à l'heure Patagonia avec ses fourrures polaires. C'est-à-dire que nous, nos communications médias, généralement, portent un message important, bien-être animal, transparence dans l'alimentation, par exemple, d'accord, ou équitable.
Ouais, c'est faire bien ou deux vaches. On a la possibilité d'adopter une vache sur Internet.
On peut adopter une vache, exactement.
J'ai fait l'exercice. Je pense que j'ai adopté. Je ne vais pas souvenir son nom, mais c'était une petite vache sympathique. Mais tout ça, c'est un discours que chez Danone, on voit pas aujourd'hui, en fait. De plus en plus, peut-être.
Oui, c'est vrai que. Alors, c'est quand même une de nos frustrations, c'est qu'effectivement les choses n'avancent pas aussi vite. On est sur du temps long pour faire bouger une entreprise comme celle-ci. Et d'ailleurs, il faut le concéder, c'est quand même aussi, malgré tout, c'est pour ça que j'insiste là beaucoup depuis quelques temps sur la dimension d'inspiration et d'engagement de Danone, c'est que en réalité, on a réalisé ça récemment dans l'équipe, on s'est aussi beaucoup construit contre. Notre entreprise s'est construite un peu contre Danone.
Par opposition, un peu. Ouais,
par opposition. Ça. Alors, il y a peut-être un peu quelque chose de l'ordre de la psychanalyse aussi dans l'histoire.
Relation filiale avec les pères.
Mais on a vraiment voulu faire ce qui nous semblait être nécessaire d'améliorer, forcément avec un miroir qui était toujours systématiquement Danone. Ça nous a donné énormément d'énergie, beaucoup beaucoup d'ambition pour faire les choses correctement. Ça a certaines limites dans la capacité justement à impacter Danone. Et donc là, depuis quelques temps, on a décidé d'être en réalité beaucoup plus ouvert encore vers Danone pour inspirer, pour encourager et pour se construire avec et pas contre Danone.
Bien sûr.
Quand même une bonne idée à la fin.
Mais on doit féliciter Danone quand même d'avoir sponsorisé ces projets au tout départ. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans l'air du temps et je pense qu'aujourd'hui la question se pose beaucoup moins, mais au tout départ, ils sponsorisaient tel projet. Moi, j'ai une expérience personnelle, j'ai dirigé une petite marque du groupe LVMH qui était pas aussi stratégique pour les groupes comme les Prairies Bio l'est. Sauf que la culture en interne n'était pas pour favoriser les labos, c'était plus de mettons les labos de côté, on va se focaliser sur l'activité principale.
Ouais.
Donc
ouais.
Le fait des Danone de porter ces projets pendant si longtemps et aujourd'hui pouvoir avoir les résultats qui sont significatifs, moi j'ai félicite parce que c'est une jolie initiative.
Mais je l'ai dit souvent, c'est vraiment le génie de ce groupe-là d'avoir réussi à faire émerger un projet via une organisation comme celle-ci. Je crois que c'est relativement exceptionnel. Je sais pas s'il y a beaucoup de précédents dans l'agroalimentaire en France comme celui-ci. Il y a deux choses quand même qu'ont favorisé cela, au-delà de la culture, au-delà du génie, mais là quand on dit ça on dit pas grand-chose. C'est que on a eu effectivement la chance dès le début d'avoir des leaders très inspirants et inspirés qui ont acheté du temps chez tout le monde chez Danone. Un gars comme Gary a raconté à tous ceux qui voulaient bien l'entendre chez Danone qu'il avait mis 10 ans avant d'être rentable, que la bio c'était pas comme le conventionnel, qu'il fallait prendre son temps. Donc ce gars-là, bien sûr par son leadership, a eu énormément d'impact chez Danone. L'organisation a fait énormément aussi de bien parce que le fait d'être caché, d'être un peu loin, finalement nous a éloigné des préoccupations financières qui étaient là. Pourtant le compte d'exploitation était mauvais au début, mais personne voyait réellement parce que c'était petit, ça n'avait pas beaucoup de signification et ce n'était pas une marque. Donc on a été isolés, ça nous a permis d'acheter du temps. Et puis il y a une dernière chose importante. C'est qu'il a fallu qu'au sein de l'organisation des Prairies Bio, je me compte dans cette organisation, il y ait des personnes qui mettent de côté l'agenda politique et ambition professionnelle et qui au quotidien se battent pour faire en sorte que cette organisation-là tienne, évolue. Bien sûr, parce qu'il faut tenir compte de l'évolution du groupe. Et on a beaucoup évolué sur plein de choses. Il y a des choses qui sont discutables, bien sûr. Il y a des choses qui sont challengeables, améliorables. Mais il y a aussi des points qui sont non négociables. Et je pense que si on en est toujours là, c'est qu'il y a eu aussi un mélange dans cette équipe de personnes qui sont là depuis le début et qui tiennent cette organisation-là de façon durable, constante. Et puis également des gens qui sont de passage et qui viennent et qui apportent quelque chose de nouveau dans l'organisation.
Ah, super. Et tout à l'heure, tu nous parlais de la marque, en fait, et de la façon de raconter des histoires et de véhiculer l'image des marques auprès des consommateurs qui est un peu différente du traditionnel. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus? Parce que on voit un discours qui est très décalé, entre guillemets. On fait la remarque, ça nous fait penser à Michel Augustin.
Oui.
Qui fait partie de l'univers, Danone. Et on a regardé un peu les dates. Ouais. On a vu que la création de Michel Augustin date des 2 ans plutôt que...
Oh non. On est même sur une chronologie parfaite.
Ah d'accord, vous êtes
les marques ont été lancées je crois, à 2 mois près. Hein.
Ah d'accord.
Ah super intéressant. Donc en fait, vous êtes pas inspiré de Michel Augustin, c'est vraiment une démarche qui est née dès le départ.
Oui, en fait, on émerge à un moment où cette façon, on va dire, superficielle quand même, de branding uniquement, vous voyez bien que là, l'histoire des deux vaches est bien plus profonde que ça.
D'accord.
Mais cette façon d'interagir avec le consommateur via des marques décalé via un discours décalé est à l'époque quelque chose qui commence à émerger, puisqu'on est à l'époque des débuts d'Innocent, on est à l'époque sur les débuts de Michel Augustin, de Lait de Vache, de Ben & Jerry.
Ça inspire Ben & Jerry.
Voilà. Donc il est certain que les personnes qui ont été sur le berceau des deux vaches, sur cette dimension branding, ces deux vaches, leur discours, il y en a une qui a des lunettes, une qui en a pas, justement une qui apporte tout le côté rationnel, très sérieux, très engagé, très filière, et puis l'autre qui apporte le décalage.
Deux joyeuses et amusantes.
Les deux joyeuses militantes d'un monde plus bio, comme on disait au début. Ça, c'est sûr que ça naît de quelque chose à l'époque qui était à la mode et qui fait que bien sûr on a quelques points de ressemblance avec Michel Augustin, mais les deux initiatives ont été poussées de façon complètement indépendante, et puis en plus avec des modèles assez différents. Alors, L'ironie de l'histoire, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans le même groupe.
Dans le même groupe, car
mais Michel Augustin sont partis sur une démarche purement entrepreneuriale. Mm-hmm. Voilà, pas du tout dans un groupe. Et nous, on est partis sur une démarche intrapreneuriale.
Et donc, pendant longtemps, en fait, le Devache, c'était la marque qui portait par les Prairies Bio. Mm-hmm. Mais depuis pas très longtemps, on a une deuxième marque, en fait.
Ouais, qui est Faire Bien.
Tu peux nous raconter l'origine de cette marque-là?
Bah, Faire Bien, c'est pas uniquement qu'une marque pour les réseaux bio spécialisés. Faire Bien, c'est l'aboutissement, finalement, de 12 ans de travail sur les deux vaches. Tant sur la façon, finalement, de faire les choses, que sur le résultat. Nous, là, après la raison d'être, on a trois piliers qui sont slow, dare et care. Mmh. Ça, c'est notre façon de faire les choses. Donc, slow, c'est privilégier, la qualité. Le temps,
prendre
le temps pour faire les choses à la vitesse, à la rapidité, voilà. Le dare, c'est oser, c'est challenger, c'est à chaque fois challenger les statu quo, changer les pratiques, ce qu'on a fait deux trois fois sur plein de sujets. Et le care, hein, c'est pour ça que je vous parle de care quand on commence à parler de faire bien, c'est prendre soin. Et en fait, pour nous réussir, mais ça, c'est très bicorp aussi, hein. C'est-à-dire que la réussite, on la regarde autrement quand on est une bicorp. Pour nous, réussir, c'est autant le résultat qu'on obtient que la façon dont on le fait avec nos parties prenantes. Mmh. Okay. Et donc, on accorde autant d'importance, un peu comme Itac et le chemin pour rentrer à Itac. C'est qu'en réalité, le chemin est aussi important que la destination. Okay. Et donc, faire bien, il est aussi construit... Le chemin pour arriver à faire bien et c'est pas un hasard, et l'aboutissement de 12 ans ou 13 ans déjà de travail en mode collaboratif qui nous fait aboutir à ce projet-là. Ce projet-là, c'est quoi? C'est il y a 4 ans avec Naturalia. On se dit qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble, pas forcément pour développer un business et un courant d'affaires, mais parce qu'on a tous les deux un intérêt à le faire. Nous, on avait envie de pousser le niveau d'exigence plus loin en étant en collaboration avec les magasins bio. Et puis, Naturalia avait envie d'avoir un acteur façon les deux vaches chez eux pour apporter un peu justement de dynamisme sur un produit, sur un rayon qui est celui des produits laitiers, et notamment en vache. Et donc, on se dit, comment est-ce qu'on arrive à faire ça ensemble? Et alors déjà, ça c'était original, puisqu'on s'est posé la question avec un client, pardon. On aurait pu le faire tout seul, et puis aller voir notre client à la fin, en disant, tiens, bah voilà, le résultat qu'on a, est-ce que ça te convient? Donc déjà, on était bien parti. Et puis en fait, on s'est dit, mais si on fait ça entre nous, ou si on fait classiquement le travail, là ici, dans les bureaux à Saint-Ouen, puis qu'on va se voir trois fois avant de lancer, on va certainement se planter. Essayons de travailler ça avec l'intégralité de nos parties prenantes. Donc on a mis là aussi autour d'une table, la table est importante chez nous, comme pour Anne-Mathilde, on a mis toutes nos parties prenantes autour de la table, de nos éleveurs jusqu'à nos consommateurs, en passant par des clients qui à l'époque n'étaient d'ailleurs pas des clients, qui étaient des clients prospects, ouais. Nos fournisseurs, des entreprises partenaires ou des ONG partenaires et une partie de l'équipe. On est parti d'une page blanche et on a construit et on a fait faire bien. Et très vite, faire bien, parce que par contre, on voulait pas lâcher ce fameux yaourt avec une raison d'être très forte et avec une conscience. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un combat pour faire bien. Et la chance de travailler en collaboratif, et notamment avec nos éleveurs, pour travailler sur un lancement, hein, on parle d'une innovation quand même, donc c'est quand même assez break, c'est que ce sont nos éleveurs à un moment qu'on trouvait le combat de faire bien. Qu'on dit, mais attendez, en fait, on parle de tout un tas de sujets. Grand respect pour les deux vaches qui traitent tout un tas de problématiques sur l'élevage, et c'est super le boulot qu'on fait ensemble. Mais il y en a une qui est absolument pas adressée, dont pas grand monde ne parle, et qui, si ce n'est pas traité, va poser un sérieux problème à la filière. C'est celui de la reprise des fermes, ouais. Et de la relève. Comment est-ce qu'on fait pour que, à un moment, quand 40-50% des éleveurs vont partir à la retraite dans les trois quatre années qui viennent, comment est-ce qu'on fait pour que de jeunes agriculteurs aient envie d'aller dans ces fermes et les reprennent ces fermes bio qui sont justement, on se le disait tout à l'heure, des fermes avec des modèles d'agriculture bio qui sont des modèles qui sont vertueux et qui ont un impact positif sur l'environnement par rapport à d'autres systèmes agricoles. Donc tous, on n'avait pas envie que ces fermes se déconvertissent ou passent sur d'autres types de modèles laitiers, d'accord? Et donc on s'est dit, bah en fait, il est là le combat et cette marque va servir à ça. Et donc on a décidé que 5% du chiffre d'affaires de cette marque-là, vendue dans les magasins, d'un commun accord avec nos clients, soit fléché vers un fonds qui prépare la relève de nos éleveurs. Et la première idée qu'on a mis en place, histoire d'être tout de suite dans l'action et très concret, parce que chez les laits de vache ou même chez les prairies en général, on force jamais les claims, c'est-à-dire qu'on dit jamais les choses avant de les avoir faites. On fait même pas d'effet d'annonce en disant on va faire ça dans 20 ans. Non, on fait les choses et après on le dit. Donc là, étant très visible sur notre pot de yaourt avec 5% pour la relève, on s'est dit que dès le début, il fallait qu'on ait une action concrète mise en place, quand bien même on n'avait pas encore compris forcément tous les enjeux de la relève des fermes, parce que c'est un sujet très compliqué. Et donc instantanément, dès la fin 2018, on a offert à nos éleveurs, via le chiffre d'affaires réalisé par les ventes, ouais, 5%, 8 jours de congé entre Noël et jour de l'an pour qu'ils puissent partir en vacances.
Ouais, ça c'est concret.
Sur 8 jours, et qu'ils se fassent remplacer dans leur ferme par globalement plutôt des jeunes.
Ouais.
Donc il y a l'idée, en faisant ça, c'est coup double. C'est-à-dire que on commence à faire rentrer via le service de remplacement en collaboration des jeunes dans les exploitations, on met en relation des anciens et des jeunes, et on permet à nos éleveurs de partir en vacances, et donc on fait courir le bruit, qui est pas un bruit, qui est une réalité, qu'une laiterie est en train, à un moment, alors là aussi on ose, hein, c'est du DER là, hein, au niveau de l'exploitation, enfin du système laitier, est en train de proposer une solution de congé payé, ouais, pour les exploitants, sachant que c'est quand même un des très gros problèmes, ouais, d'attractivité pour des jeunes, hein. C'est-à-dire que les jeunes ne veulent plus aller sur l'élevage laitier parce que c'est un métier de dingue avec 2 traites par jour, avec pas de vacances quand on est, ouais, tout seul. Enfin, voilà. Donc c'est bien normal au-delà même de la rémunération. Encore une fois, c'est pas que la rémunération sur les conditions de travail. C'est normal que cette jeune génération soit bien moins attirée par ce métier-là.
Magnifique, bravo. Et on parle de la relève, est-ce qu'on profite pour parler des enjeux pour la suite?
On va parler de la suite, exactement.
On se disait, bon, merci d'abord, on n'a pas encore terminé, mais je profite pour te remercier parce qu'on apprend beaucoup de choses.
Passionnant, hein.
C'est passionnant ce que vous faites, mais je suppose qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Tu nous parlais des Bicorp, vous avez obtenu un peu plus de 80 points, je sais pas combien, sur 200. Donc, au-delà même des Bicorp, parce que vous faites pas ça que pour Bicorp, c'est juste un certificat pour légitimiser ce que vous faites, mais quelle est ta vision pour la suite, les 5-10 ans, quels sont les challenges à venir pour les prairies bio?
Ouais. Bah, t'as raison, mais c'est quand même un bon indicateur. Bicorp, 80 points, un peu plus de 80 points sur 200, ça montre que le chemin est considérable. Ouais. Mais c'est ça qui était exaltant, d'ailleurs. Et mon équipe, et moi le premier, bien sûr, mais l'équipe se lève le matin pour ça. C'est-à-dire que le chantier, il est considérable dans l'agroalimentaire. Je vous cache pas, je te cache pas que quand on parlait tout à l'heure de l'arrivée dans l'agroalimentaire, quand même, moi, c'est ça qui m'a fait à un moment tenir dans ce métier de la bouffe. C'est celui de se dire que, waouh, en grande consommation, bien sûr, hein, je parle pas d'autres types de bouffe, mais en grande consommation, il y a du boulot, quand même. Et chez nous, il y en a encore énormément. Donc, effectivement, les enjeux pour les deux vaches, ils sont multiples. Si on est sur les filières, si on est sur l'attractivité du métier d'éleveur, si on est sur les enjeux filières sociétaux comme le bien-être animal, il va falloir adresser des sujets dans les années qui viennent qui sont des sujets lourds. Et alors là, il va falloir encore plus oser. Parce que on va peut-être toucher à un système laitier, par exemple, qui existe depuis très longtemps et qui fait quand même globalement la performance économique du lait pour la grande consommation. Je m'explique. Si on commence à, par exemple, justement travailler sur l'attractivité du métier d'éleveur pour avoir demain des éleveurs, ça veut dire qu'il va falloir changer des choses dans le fonctionnement et la relation avec les éleveurs. Cette histoire, par exemple, de 8 jours payés, c'est super. Là, on arrive à le faire financer par d'ailleurs. Alors c'est ça qui est intéressant, par la vente de notre yaourt et surtout par des arbitrages sur le compte d'exploitation de notre yaourt. Ça, je l'ai pas précisé tout à l'heure. C'est-à-dire que le produit est pas 5% plus cher.
Ouais.
Je parlais de faire bien tout à l'heure.
Ah, d'accord.
Hein, d'accord. Ensemble, en collaboratif, on a décidé de couper un certain nombre de coûts classiques dans un compte d'exploitation
marketing,
d'un produit de grande consommation,
ouais, du marketing, ouais,
pour justement driver l'argent un peu plus vers les filières. Et donc, notamment, promotion, PLV, marketing ont été réduits de 5% pour envoyer les 5% ailleurs. Donc ça, c'est sympathique. Mais si on veut commencer à aller plus loin, si on veut, par exemple, à un moment faire de la traite un sujet moins important, moins bloquant pour nos éleveurs, alors on va rentrer dans d'autres choses. On va par exemple parler, je dis pas que c'est ce qu'on va forcément réussir à faire, mais on va parler de monotraite par exemple, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une traite par jour chez nos éleveurs. Ouais. Quand on parle de monotraite, il y a un impact économique qui est considérable, parce que ça veut dire moins de lait, ça veut dire une rémunération moins importante pour les éleveurs. Comment est-ce qu'on règle cette histoire-là? Donc il va y avoir, et je ne vous ai pas parlé du bien-être animal.
Ouais.
Hein, mais si on veut vraiment faire un gros step sur le bien-être animal, et nous c'est notre ambition, on a déjà fait des choses, mais c'est des choses sympathiques qu'on a fait. On n'a pas attaqué le dur.
Ouais, d'accord.
Hein, d'accord. Mais si on veut commencer à attaquer le dur sur le bien-être animal, qu'on parle de la condition des veaux, par exemple.
Hein, ouais, la séparation des mères.
Ou de l'abattage, ou du nombre d'années avant de réformer nos vaches. Là, on va commencer à attaquer des sujets qui sont compliqués et qui vont à la fin, de toute façon, avoir un impact économique sur le coût du litre de lait, du litre de lait bio. Mais de toute façon, il va falloir les adresser, ces sujets-là.
Il va falloir réinventer tout un secteur.
Continuer à réinventer cette filière.
Et peut-être éduquer aussi un consommateur qui va devoir payer aussi plus cher son produit laitier.
Oui, aussi. Mais il y a, alors ça, c'est dans nos priorités également. Mais on a aussi un enjeu d'accessibilité.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ce qui rend notre aventure passionnante. C'est qu'en fait, c'est extrêmement complexe. Bien sûr, moi, je refuserais d'arriver à un yaourt bio uniquement destiné à certains, une élite parisienne qui a les moyens de s'acheter ce yaourt-là. Il faut qu'on arrive à rester accessible. Donc, il faut probablement qu'on challenge nos comptes d'exploitation pour aller mettre l'argent au bon endroit.
Mm-hmm.
Voilà, ça c'est fondamental. Il faut peut-être qu'on se pose des questions sur nos recettes pour les rendre aussi peut-être plus accessibles. Et puis, on a quand même, malgré tout, une mission d'éducation consistant effectivement à éduquer le consommateur, à remettre de la valeur dans l'alimentation. Ça, c'est une première chose. Et puis, on a un sujet aussi à adresser, qu'on va adresser dans les mois qui viennent, qui est celui de la consommation en tant que telle. Hein, est-ce que ça veut dire quoi, cher? Ça devient cher quand tu achètes très souvent d'un même produit. Voilà. Mais tu peux acheter moins souvent un très bon produit et que donc, du coup, finalement, il te coûte moins cher.
On voit dans la viande, typiquement, aujourd'hui, les consommateurs ont appris à consommer moins de viande, mais de la viande de qualité.
On est tout à fait d'accord. Donc là, voilà, on est sur ces enjeux-là. Après, sur les recettes, bah, bien sûr que là aussi, il y a un certain nombre de priorités et la route est assez claire. J'en parle sans trop en parler, mais le nom de l'entreprise, c'est les Prairies Bio. Donc, des Prairies Bio partent aujourd'hui que des vaches qui pâturent dans les prairies. Mais une prairie est capable de proposer tout un tas d'autres choses qui n'est pas obligée de passer par l'intestin
d'une
vache. Donc, à un moment, il y aura sûrement pour nous la volonté d'essayer de proposer une diète alimentaire à nos citoyens consommateurs plus équilibrés qu'exclusivement la consommation de yaourt au lait de vache, en reprenant quand même les assets et le socle de notre entreprise, à savoir des produits excessivement bons avec des listes d'ingrédients très très courtes, très simples, très peu d'ingrédients, et la valeur ajoutée extraordinaire de la fermentation au milieu de tout ça, qui est important.
Tu nous as dit que tu annonces rien avant de les faire, donc je suppose que tu vas pas vouloir nous dire de quels produits.
Non, mais parce que je sais même pas quand est-ce qu'on va réussir à
le
faire.
Ce sont pas des conversations en cours aujourd'hui. C'est une volonté d'aller au-delà de.
C'est dans notre feuille de route à long terme, évidemment. Et puis enfin, il y a toute la dimension d'interaction avec nos parties prenantes, et quand même là, l'air de rien, avec nos consommateurs, où là aussi il y a des pistes d'amélioration considérables dont on est conscient, qu'on essaye déjà de mettre en place, qui consiste là aussi à réinventer notre communication avec le consommateur, quoi. Sortir d'une logique de consommation mass-média et quand même un peu en influence et en manipulation, et rentrer dans une communication beaucoup plus, ce qu'on appelle en pleine conscience,
plus sincère
et surtout ayant une utilité et un impact. En réalité, tout ce qu'on essaye de faire, on essaye d'avoir de l'impact, et notre com doit aussi en avoir. On doit, quand notre consommateur reçoit quelque chose de nous, ça doit à un moment lui servir.
C'est-à-dire utiliser les leviers de communication, non pas pour créer quelque chose qui peut paraître artificiel, mais vraiment pour mettre en lumière tout ce que vous faites. Parce que c'est vrai que même nous, aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses sur les deux vaches, et ça serait intéressant de le voir un peu plus sur tous les autres supports de communication, et c'est très intéressant.
Exactement. Et puis, faire confiance ensuite à nos consommateurs en se disant que de toute façon, à partir de là, du coup, la relation à l'entreprise et à la marque change, et qu'elle n'a pas forcément besoin, du coup, d'avoir un niveau de séduction et de manipulation qu'elle avait jusqu'à maintenant avec d'autres types de marques.
Super. Bah, malheureusement, on va devoir terminer parce que Christophe va devoir nous quitter. On arrive au mot de la fin. On a quelques questions un peu rituelles pour terminer. La première, c'est, est-ce que tu pourrais nous parler de ton plus gros challenge ou échec? Échec, dès qu'on pose cette question, tout le monde nous dit, il n'y a pas d'échec, on apprend, etc.
Pas d'échec dans l'entreprise.
Et on partage cette vision.
Mais bien sûr.
On a un peu évolué les trucs. Donc, c'est plutôt un challenge. Quel est ton plus gros challenge jusqu'à jour chez Prebio? Et ta plus grosse fierté ces 10, 12 dernières années?
Ouais. Des échecs, mais bien sûr que si, on en a plein. Ce serait malhonnête de raconter une histoire sans échecs. On en a eu de nombreux. Le plus, il y en a deux pour moi qui sont assez cuisants. Il y en a un premier qui remet un peu les choses à leur place après tout ce qu'on vient de se dire. C'est de croire que justement en ayant en première raison d'être la volonté de faire toujours mieux, d'améliorer les choses, d'avoir par exemple sur les recettes des recettes toujours plus simples, toujours plus propres, clean, va nous permettre du coup d'être beaucoup plus attractif en termes de demande. Le marché est bien plus dur et compliqué que ça. Il y a deux ans, on a décidé d'enlever des additifs sur une bonne partie de nos yaourts aux fruits. Et on s'est retrouvé avec une recette super propre, quoi. Mais vraiment, il y avait pas mieux en termes de yaourts aux fruits sur la liste des ingrédients. Mais le produit était un peu dégradé d'un point de vue organoleptique. Enfin, ouais. Pas organoleptique, mais pas visuellement.
Bon, gustativement, non, d'accord.
On avait un petit peu de sérum à la surface du yaourt. Et on s'est retrouvé immédiatement en échec sur la demande, c'est-à-dire que notre produit on l'a moins vendu qu'on le vendait, quoi.
C'est fou.
Donc c'est ça aussi le marché, et ça nous rappelle que la première des choses à faire pour justement avoir de l'impact et changer le modèle, c'est de commencer basiquement par avoir un très bon produit. Et que l'un sans l'autre, c'est pas possible.
Et là, le produit, même si vous aviez voulu éduquer le consommateur, c'était rédhibitoire parce que
ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est très intéressant en termes de learning. Mm-hmm. Le deuxième aussi qui me touche assez, c'est qu'on a essayé de déployer les deux vaches ailleurs qu'en France.
Ah.
Et on n'a jamais réussi.
Ouais.
on n'a jamais.
En Europe.
Ouais. Trois initiatives, une en Espagne qui a duré deux ans.
La dos vacas.
Une en Italie, traduit également en italien, et une en Belgique. Et alors l'expérience belge est toujours en place. Je sais pas combien de temps ça durera, mais l'expérience italienne et belge sont arrêtées. Et en fait, moi, je n'ai pas réussi à convaincre mes homologues espagnols et italiens de mettre en place une organisation similaire à la nôtre pour réussir à faire la même chose dans ces pays-là. Et donc, ces marques-là ont été lancées comme des marques du portfolio de Danone Espagne.
Ça confirme ce que tu disais au départ avec Stony Field
UK. Et n'ont pas été pérennes. C'est-à-dire
il faut une organisation.
À la moindre difficulté et un changement de focus et de priorisation, arriver d'un nouveau sujet, et notamment par exemple en Espagne, de la volonté de lancer des marques de Danone en bio. Mmh. Alors le projet a été...
Il faut des intrapreneurs. Même si on veut décliner dans un autre pays, il faut une équipe.
C'est très clairement ma conviction, et moi je n'ai pas réussi à convaincre Danone de cela. Comme quoi, c'est pas toujours facile. Très facile.
Et ta plus grande réussite ou fierté avec les Prairies Bio?
C'est de commencer 10 ans après à voir sérieusement l'impact de notre activité sur notre écosystème. Mmh. Et notamment, vous l'aurez compris, je pense, toute la partie amont.
Les éleveurs.
Et les éleveurs. Se dire qu'aujourd'hui, on a 45 gars qui bossent bien, qui, je pense, globalement, vivent assez bien de leur activité. Quand même, on peut toujours faire mieux. Et d'avoir des gens à l'usine également, à notre usine normande, à côté de nos éleveurs là, à côté de Bayeux, qui à chaque fois qu'on vient, et on vient très souvent les voir. En fait, nous on est dehors tout le temps, hein. Nos vaches passent 250 jours dehors par an, et je crois que l'équipe c'est pareil. Donc en fait, on se frotte énormément à l'extérieur, hein. On passe très peu de temps ici en réalité. Et donc on est très souvent à l'usine, et cette usine est extrêmement fière du projet des vaches. C'est leur projet à eux aussi. Merci. C'est probablement le projet qui a pérennisé l'activité de cette usine. Et quand à chaque fois qu'on y va, on a des opérateurs, des gens très simples qui viennent nous voir en nous disant c'est génial ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire. Et du coup, par exemple, cet investissement sur cette ligne, qui est un investissement conséquent, les rend extrêmement fiers et les rassure, et de savoir qu'on contribue justement à pérenniser une activité celle-ci, comme celle-ci, dans une région qui est pas la région parisienne non plus. Nous rend fiers, effectivement, et moi le premier.
Quel conseil tu donnerais justement à un manager, un dirigeant dans un grand groupe food qui veut se lancer comme toi dans un projet intrapreneur?
Ouais.
Tu lui donnerais quel conseil ou?
Bah, c'est qu'il se pose des bonnes questions sur son agenda à lui personnel.
Ouais.
Sur son évolution professionnelle. Parce que je crois qu'on parle pas des mêmes types d'évolution quand on fait de l'intrapreneuriat, en entreprise, et surtout quand on veut aller au bout. Si on veut s'amuser pendant 2 ans pour dire qu'on a fait de l'intrapreneuriat sur un CV, ça passe. Mais si vraiment on veut le faire sérieusement et qu'on veut changer les choses, je crois qu'il faut mettre de côté une certaine forme d'ambition. En fait, l'ambition, elle est pas la même, quoi. Hein, c'est vraiment l'ambition du projet plus que.
En tout cas, faut être moins pressé.
Ouais, mais moi je le dis souvent chez nous, les ambitions individuelles sont toujours inférieure à l'ambition du projet collectif.
Ouais.
C'est très clair. Donc, je donnerais déjà ce premier conseil-là, c'est-à-dire si vraiment vous mettez de côté l'agenda personnel et que vraiment... Alors là, c'est bon, il faut y aller, sinon faut pas le faire. Parce que la constance et l'engagement et le courage sont des choses ultra importantes. Et donc, quand on met de côté l'agenda perso et l'évolution à 2 ans, on est du coup sûrement capable de prendre un petit peu plus de risques. Et d'être un peu plus, parce qu'il faut en permanence dans ces grosses boîtes là il faut hacker le système, hein. Et il faut toujours être super borderline. Faut pas bien sûr sortir de la route, parce que là c'est faute et ça se termine, mais faut quand même toujours être à la limite, et être à la limite, c'est quand même un métier.
Ouais, hein, ça fait 2 ans que
ça demande une certaine forme de résilience et de courage, parce que parfois, ça se passe bien, et parfois, c'est quand même limite carton rouge quand même. Ouais, quoi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, évidemment. Et puis, la dernière des choses quand même, ça, c'est pas un conseil, mais c'est la contrepartie du borderline et de l'approche un peu particulière, c'est qu'il faut que ça marche.
Ouais. Sinon, ça s'arrête plus.
C'est-à-dire que là, ouais, après, les choses s'arrêtent. Donc, moi, la équipe est tout à fait consciente de ça aussi. Hein. Le jour où nous n'aurons plus de contribution et de valeur, même tout simplement économique, même à commencer par celle-ci, qui est quand même importante, sûrement que les choses sont bien plus compliquées.
Parfait, c'est clair.
Petite
conclusion classique.
Daniel. Oui, on a toujours une question. Tu nous as dit au départ, tu nous as un peu cassé les rêves. Tu dis que tu es pas un épicurien et que la bouffe, c'est arrivé un peu plus tard. Bon, c'était pas ta volonté de départ de travailler là-dedans. C'était un peu l'hasard de la vie. Quel hasard, parce que tu reprends quand même les origines de ta famille. Mais on termine toujours avec un bon plein bouffe à partager. Ça peut être une petite recette. Ça peut être un restaurant.
Est-ce que tu as quelque chose?
Ouais, toi, tu es plutôt à Paris, Normandie, c'est où que
ou
tu...
Lyon, non,
je sais pas. Non, l'endroit où je mange le mieux, c'est à Lyon.
Parce que Lyon. Voilà, tu habites à Lyon?
Oui, parce que je partage ma vie entre la Normandie, Paris et Lyon.
Et tu as un bon resto à Lyon à recommander à nos auditeurs qui sont partout en France, mais...
Ouais, j'en ai un.
Une bonne adresse, hein.
J'ai indéniablement une bonne adresse, mais je suis pas sûr que ce soit ouvert très très souvent. C'est ma mère.
Mère des Lyons, en fait.
C'est une des mères de Lyon.
Mère
ma maman qui est heureusement encore en vie est une super cuisinière. D'ailleurs, elle est désespérée que j'ai pas plus d'appétence pour la gastronomie. Par contre, j'apprécie d'aller manger encore chez elle, sa cuisine. Et on est dans une région, oui, où il y a quand même des ingrédients. C'est pas un hasard si Lyon est une des capitales mondiales de la gastronomie. C'est qu'il y a un écosystème autour de Lyon qui est absolument extraordinaire, entre les légumes, les fruits, le vin et la volaille. on est sur des choses absolument géniales.
Et on était la semaine dernière avec Edouard Morange, fondateur d'épicerie.
Ouais.
Et il nous racontait donc les plats de sa mère qui étaient la langue des bœufs.
Ouais.
Moi, je pense aux abats. Quand tu
poulet parles, à l'estragon.
Ouais, poulet à l'estragon, la langue des bœufs. À Lyon, c'est quoi les plats typiques de ta mère, les plats?
Alors, elle est
signature.
Vu qu'on est d'origine à la fois au Savoyard du côté de ma mère et l'Isère, enfin et Grenoble, il y a une inspiration aussi qui vient de là-bas. Mais elle a aussi bien sûr appris les plats lyonnais qu'elle réussit très très bien. Les quenelles, évidemment, en sont un exemple.
L'inspiration au Savoyard m'intéresse particulièrement, donc je t'écoute.
ça, elle sait très bien faire. Après, là où elle est experte également, et c'est sur les fameux plats complets qu'on retrouve dans toutes les cultures françaises, le cassoulet, par exemple, ce genre de choses-là. Et alors elle a une spécialité dont je raffole, mais elle a eu la chance d'apprendre ça sur place, dans le Maghreb, et là au Maroc, en l'occurrence, c'est pas du tagine, mais c'est le couscous.
Ouais.
Donc c'est quelque chose qu'elle cuisine super bien. Et alors là, pour le coup, ça me fait plaisir d'en manger un très bon une fois de temps en temps.
Parfait, super.
Merci beaucoup Christophe, c'était passionnant de t'entendre et d'en apprendre beaucoup plus sur l'aventure intrapreneuriale des 2H.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.